Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec un plateau, encore une fois ce soir, 5 étoiles les amis. Non pas 2, non pas 3, mais 4 débriefeurs sur le plateau de Tech & Co. Jusqu'à 21h, c'est le grand luxe. Nous avons Thomas Serval qui est là. Salut Thomas.
Salut François.
Heureux de te retrouver mon cher Thomas. Thomas qui est PDG de Barracoda, entre autres. À tes côtés c'est Didier Sens. Salut Didier.
Hello.
Journaliste, évidemment tech, depuis de nombreuses années. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir ce soir Augustin Seyer. Salut Augustin.
Bonsoir François.
Qui maintenant partage sa vie entre Paris et les US, voire même plus souvent aux US qu'à Paris. Hein.
Plutôt San Francisco.
Voilà.
C'est toujours sympa de revenir à Paris et d'être sur ce plateau.
Eh ben, on est très heureux de t'accueillir et tu sais que tu es toujours le bienvenu. Tu es le cofondateur d'OVNI et bien sûr Frédéric Simotel.
Bonsoir.
Journaliste à BFM Business.
Bonsoir.
Grosse actu et on va commencer donc par cette nouvelle victoire pour Bruxelles dans son bras de fer avec les géants de la tech. Apple vient de perdre donc son recours contre la Commission européenne. Le groupe en fait contestait son statut de contrôleur d'accès prévu par le Digital Markets Act, hein, le fameux DMA. Une décision qui l'oblige à continuer d'ouvrir son écosystème à la concurrence et ça ne plaît pas à Apple. Hein, les explications de Léa Benahim et on revient après sur ce plateau.
Apple a voulu faire tomber son statut de gatekeeper, mais a perdu sur toute la ligne. Le groupe ne contestait pas le DMA lui-même, mais sa désignation comme contrôleur d'accès. Un statut qui déclenche toutes les obligations prévues par cette loi européenne. D'abord, l'entreprise estimait que les App Store de l'iPhone, de l'iPad, du Mac ou de l'Apple Watch étaient des services distincts. Une manière de réduire le périmètre des obligations qui lui sont imposées. Autre sujet crucial, l'interopérabilité. Selon Apple, contraindre iOS à s'ouvrir davantage aux appareils, accessoires et logiciels concurrents risquerait de fragiliser la sécurité et la confidentialité de ses utilisateurs. Mais là encore, le tribunal de l'Union européenne a dit non. Résultat, Apple restera un gatekeeper. Le groupe devra continuer à ouvrir son écosystème, autoriser des boutiques d'applications alternatives et laisser les développeurs proposer d'autres moyens de paiement. Une décision qui conforte la stratégie de Bruxelles pour limiter le pouvoir des géants de la tech.
Voilà, et c'est vrai que le pouvoir d'Apple est, on va dire, un peu bousculé avec ce DMA. Apple déteste ça, le dit, le répète à chaque fois. Vous savez que dans quelques semaines devra arriver le fameux Siri AI, qui est la nouvelle génération de Siri. Et Apple l'a dit lors de la WWDC, Siri ne sera pas disponible en Europe tout de suite. On ne sait même pas s'il sera disponible un jour, à cause, entre autres, du DMA. Peut-être qu'il y a aussi un peu de RGPD, mais on en saura plus à la rentrée. Alors, il y a pas mal de choses à dire. Léa a bien expliqué la situation, mais quand même revenir, peut-être Thomas, pour commencer, sur cette situation complètement inédite pour Apple d'être aujourd'hui contraint par l'Europe. Apple n'a jamais été contraint depuis 20 ans, 30 ans qu'ils existent. Là, maintenant, c'est une autre histoire.
C'est un moment Microsoft, effectivement. On a unbundlé le navigateur qui était, si on se souvient tous, hein, ça a eu un impact important sur la trajectoire de Microsoft. Mais ce qui est malheureux, c'est que il faut bien voir que l'App Store, il s'est créé contre l'avis de tout le monde. Hein. Il s'est créé à l'époque, on pensait qu'il fallait télécharger des fichiers, qu'il fallait laisser à chaque utilisateur, et les App Store ont gagné. Apple a imposé cette vision.
Il paraît que même Steve Jobs n'était pas OK pour l'App Store au tout début.
En tout cas,
après, il a été convaincu par
Steve Jobs n'était pas d'accord pour ouvrir aux développeurs la possibilité de faire des applications.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que moi, j'avais vécu à cette époque-là. Mais donc, grosso modo, il faut voir que cette innovation qui a fait exploser un nouveau business, qui était celui de la vente d'applications, elle a tourné naturellement au monopole, puisque quelque part, on ne peut pas d'un côté être l'endroit où on valide les applications. Il y a des pros et des cons. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble des contraintes, enfin moi je peux parler d'expérience, Apple met beaucoup de contraintes quant à la commercialisation de ses produits pour éviter qu'on lui détourne des flux de revenus.
Bien sûr.
Ils ont perdu aux États-Unis aussi. Hein. Il n'y a pas qu'en Europe qu'ils perdent.
Hein. Non.
Ils perdent parce qu'ils sont le monopole sur la distribution des applications.
Il y a la Corée du Sud aussi, je crois. Il y a le Japon, il y a l'Australie aussi qui s'en mêle. Enfin, ça commence un peu à craquer peu partout.
Et pour le consommateur, c'est probablement mieux. Je vous donne un exemple assez concret. Aujourd'hui, Apple autorise à vendre sur l'App Store des produits software. Mais beaucoup de produits maintenant sont des bundles entre du hardware et du software. On n'a pas le droit de vendre du hardware sur l'App Store.
Donc, je peux pas acheter, par exemple, je sais pas moi, un casque audio sur
la montre connectée.
Une montre connectée.
Et surtout, un bundle entre un produit hardware et software. Mm-hmm. Inversement, Amazon t'interdit de vendre du logiciel. Donc, en fait, toutes ces plateformes sont en train quand même de contraindre un écosystème qui pourrait se réinventer autour de trucs intégrés. Et donc, c'est pas mal de forcer des alternatives. C'est aussi pas mal de faire en sorte qu'il y ait peut-être des offres alternatives, notamment sur des sujets sur lesquels Apple ne veut pas aller, à cause de l'IA, on va en reparler. Mmh. Donc, pour moi, c'est quand même pas mal. D'abord, parce que ça fait toujours du bien de secouer un peu l'écosystème. En fait, le problème, c'est que l'Europe est impuissante. Les consommateurs veulent de l'App Store. Apple va faire ce qu'il fait avec Siri.ai. C'est-à-dire, tant que vous restez comme ça, on ne vous donne pas les dernières innovations et les consommateurs ne vont pas le supporter. Donc, c'est pas sûr que, contrairement à Microsoft, qui en 2005 a vraiment perdu et a permis à Chrome d'émerger comme une alternative à Internet Explorer.
Firefox, c'est Chrome aussi à l'époque.
C'est pas sûr qu'on soit dans un marché qui, même si on crée de l'alternative, il y a un tiers européen qui puisse en bénéficier. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est qu'on a l'impression qu'on régule d'un côté, mais sans remède européen de l'autre. Et ça donne, finalement, beaucoup de pouvoir à Apple en disant « Ah, regardez, on me harcèle, on fait des normes, etc. » S'il y avait aujourd'hui une offre européenne viable, stable, qui dise « Voilà, l'App Store européen », et ben là, ça serait intéressant. Et c'est pas, pour le moment, c'est pas le cas.
Pourquoi tu dis que c'est pas mal, alors ? Pour moi, c'est une défaite pour le consommateur européen.
Donc c'est pas mal quoi.
T'as dit c'est plutôt pas mal ce jugement. Moi je trouve que c'est une catastrophe. C'est quand tu cliques sur Google Maps depuis Google, ça t'ouvre plus Google Maps. C'est qu'en fait Siri AI on l'a pas.
Oui, mais
c'est tous les disclaimers quand tu vas sur un site web en disant est-ce que vous acceptez qu'on partage vos données. Non, moi,
c'est la commission pour laquelle tu n'as pas voté qui prend des décisions et qui en fait qui continue de nous réduire à. En fait, tu disais en 2005 Microsoft, mais à l'époque l'Europe comptait beaucoup plus.
Exactement, non, mais je suis tout à fait d'accord.
Aujourd'hui, on ne compte plus en fait. Et pour moi, c'est tu sais, tu disais victoire pour Bruxelles, échec pour tous les Européens quoi.
Oui, après. Je pense qu'Apple a un peu cherché aussi le fait Apple, de se faire taper sur les doigts parce que
ils ont 30% du marché. En fait, si t'es pas content avec le système Apple, t'achètes un Android. T'achètes autre chose. Je le comprends
Google
pas.
Google s'est fait
pas.
Condamner pour la même chose. Hein. Ouais. Il faudrait le rappeler aussi. Android, ouais, oui, le même problème. Sûr. Ils ont une amende sévère.
T'achètes autre chose. En fait, Apple, leur grande fierté, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur ce système fermé, qui protège, qui soi-disant plus performant sur la sécurité, sur les données privées. Tu vas pas forcer quelqu'un qui s'est fait sa réputation là-dessus à dire bon, allez, on vous devait tout ouvrir du jour au lendemain.
Ouais, mais bon, après, ce qui s'est passé, c'est tout a commencé aussi à l'époque d'Epic, lorsque le jeu Fortnite a été retiré de l'App Store, rappelez-vous, parce que Epic essayait de. Non, on y revient, parce que il y a toujours ces 30% de marge que les éditeurs, et alors je sais que tu es éditeur sur Apple Store, ça a du mal à passer pour certains. Tu vois, tu prends un Spotify ou un Netflix qui tous les mois, doit reverser, alors peut-être pas 30% parce que ce sont des systèmes d'abonnement réguliers, mais des dîmes énormes à Apple, alors qu'ils n'apportent plus rien finalement.
Oui, mais t'es pas obligé de passer par la plateforme Apple pour l'acheter.
Alors si.
Ah bien, c'est ça le problème.
T'es pas obligé. Sur Spotify, enfin regarde, Amazon, ils te disent, non, ou YouTube, tout ça, ils te disent, vous pouvez acheter, ça coûte 11,99€. Ouais, mais... Si vous allez en direct sur ce site, c'est 9,99€.
Mais ça, c'est contraire aux guidelines d'Apple, donc quelque part...
Non, c'est pas parce que même Google fait la pub sur YouTube, t'as le droit de le faire. Je pense qu'en effet, ils ont dû taper et tu peux... Là où je te rejoins complètement, c'est qu'en fait, l'Europe, on a été bon... L'Europe, c'est quoi ? C'est développé par son mercantilisme, sa compétition entre les États pour créer de l'innovation. Là, on réglemente un OS, on n'en a pas nous-mêmes.
C'est ça le...
Le souci, c'est ça.
Mais c'est pas une raison pour se laisser faire quand même.
Mais tu te laisses pas faire. En quoi on se laisse faire? Au contraire, on est les premiers à souffrir. En quoi ça va nous aider?
Plus ces géants du numérique ont de pouvoir, tu le sais très bien, plus ils vont s'accaparer les richesses des pays européens, les ressources des pays européens, et c'est eux déjà qui traitent nos données, qui traitent le cloud, qui traitent...
Données, elles sont encryptées en France, il n'y a aucun moyen qu'elles soient accédées aux États-Unis.
En tout cas, c'est les problèmes qu'on a, c'est que t'as un monopole.
Attends, excuse-moi, mais quand t'es sur Facebook ou sur Twitter...
Ah, ça, c'est autre chose, elles sont peut-être pas...
T'es traqué dans tous les sens, excuse-moi, ça s'appelle comment? Ça s'appelle de la commercialisation de données. C'est leur manière de vivre. Donc,
oui, mais ils s'emparent du marché européen. C'est pas comme ça qu'on va innover, en fait. C'est pas l'innovation, c'est pas de réglementer.
Ça commence comme ça. il faut poser des règles, parce qu'il n'y a pas de raison que ces gens-là, qui sont richissimes et qui font des bénéfices avec un écosystème qui est complètement
fermé
et déconnecté des usages habituels du commerce traditionnel, que ça continue. Il y a des règles à respecter.
Et à la fin, c'est le consommateur qui vote. C'est le consommateur qui vote avec son
porte-monnaie. Le consommateur, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, OK, vous nous proposez des app stores alternatifs. Tu en as vu beaucoup, des gens qui utilisaient des app stores alternatifs ?
Non, parce que tu peux pas. Apple, son app store, c'est 2008 ou 2009, j'en sais rien. C'est tout ce travail. Tu peux pas juste dire, tiens, je vais faire un app store.
Alors, ça existe, hein. Il existe des app stores alternatifs. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt.
Moi, je pense que là-dedans, tu prenais l'exemple des navigateurs, là, il y a quelques années. C'est vrai que, du coup, ça fait monter Chrome, ça fait monter Firefox, qui a disparu, qui a retourné en part de marché. Ça fait pas fait monter Safari et ça a pas fait monter de solutions européennes. Moi, je pense qu'il y a quand même, là-dedans, il peut y avoir un mot vainqueur, c'est l'innovation. C'est-à-dire, ça va forcer les développeurs aussi à chercher un peu, ils vont avoir un peu moins ils vont réduire leurs coûts, a priori, hein, si tout se passe bien, ils vont pouvoir développer moins cher, donc ils vont pouvoir essayer d'innover. Et Apple, ça va les forcer aussi à aller chercher un peu d'innovation.
Mais je suis entièrement d'accord, il n'y a pas de raison que Apple soit le seul à profiter des innovations techniques qu'ils mettent en place, même si effectivement, c'est eux qui développent la plateforme. Il n'y a pas de raison que les petits développeurs, les petits programmeurs qui essayent d'accéder
aux ressources
système.
Faut pas me...
Non, mais tu vois le problème.
J'entends bien que le 30% d'Apple, c'est trop élevé.
Le problème, c'est qu'il n'y a que comme ça, en régulant, que tu arrives à les faire plier.
Exactement.
C'est ça le souci.
Tu sais quoi,
il n'y a pas d'autre solution.
Les développeurs. Enfin, ouais.
Alors, peut-être pour donner l'exemple, il est effectivement.
Parce que je pense qu'il y a eu des dialogues.
Non, mais
il y a eu des dialogues entre les développeurs et Apple.
Non, mais même Apple, ils avaient autorisé les boutiques alternatives, ils avaient autorisé toutes les histoires autour de la puce, des puces.
Amazon avait
la réduction des consommations, des commissions, pardon, ils avaient quand même accepté ça. On pouvait.
Oui, mais c'est ça, c'était suite au DMA.
Oui, mais justement.
Ils l'ont fait parce qu'ils étaient contraints de le faire.
Donc,
parce qu'autrement,
ils ont quand même fait.
Et je te rappelle qu'ils ont 500 millions d'euros d'amende, là, qui est en route.
Oui, mais ça veut dire qu'ils sont capables de faire
parce qu'ils étaient contraints.
Bah oui.
En fait, on n'arrive pas avec une multinationale américaine à fonctionner en dehors d'un cadre légal. C'est-à-dire que la multinationale américaine, elle vient du fait que dans l'écosystème américain, tout est autorisé jusqu'à ce que ça soit interdit. Et donc, se constitue assez naturellement, parce que l'informatique veut ça, des monopoles. L'Europe s'est construite, mais également les États-Unis contre les monopoles. Il faut voir que c'est le challenge sur aujourd'hui les gens qui devraient challenger le plus et qui le challenge déjà aux États-Unis, c'est Apple qui a 80% du marché, pas les 30% qu'on a en Europe, et que eux ont été contraints d'ailleurs par la commission, par l'équivalent de l'antitrust organization, déjà à faire baisser leurs commissions, autoriser des bundles. Donc quelque part que Apple soit régulé, c'est normal. Est-ce que la régulation qu'on est en train de mettre sur Apple, elle est applicable? Faut juste rappeler que 500 millions d'amendes, c'est que dalle pour Apple. Ça va pas changer leur comportement. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas quelque chose qui soit opérable, c'est-à-dire que pas, tant qu'on mettra des amendes qui sont insignifiantes pour Apple et que celui qui va payer, c'est le consommateur qui aura pas les services, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais clairement, on a besoin de règles parce que pour avoir été côté GAFAM, systématiquement, les mecs te disent, on continue, jusqu'à ce qu'une loi, une condamnation définitive soit portée, et auquel cas on doit respecter la loi, parce que c'est comme ça que les Américains réfléchissent. Et donc, on n'arrive pas à se faire entendre. Moi, mon problème aujourd'hui sur la Commission européenne, c'est que les moyens sont totalement déraisonnables au regard des enjeux et des acteurs qu'ils ont soi-disant régulés, qu'il n'y a pas d'alternative européenne, parce que quelque part, on aurait pu utiliser toute cette procédure débat avec Apple pour faire émerger des app stores alternatifs, au moins sur les applications de santé, au moins sur les applications de défense, au moins sur... On n'a rien fait. On attend juste qu'il y ait une condamnation qui va être probablement mise en appel par Apple. Moi, on rappelait chez Google que quand on prenait une amende de la Commission européenne, c'était une journée ou deux journées de profit, trois journées de profit. Allez, on va attendre 3 ans de plus, ça sera 10 minutes de profit. Donc, notre mode de régulation n'est pas adapté à la régulation des GAFAM, c'est absolument vrai. Ça remonte notre faiblesse. Et à chaque fois qu'on fait ce genre de truc qui finalement ne change pas le comportement d'Apple, on affaiblit l'Europe et on affaiblit la Commission, en fait. C'est ça le problème.
Oui, mais malgré tout, quand on prend un peu de recul, le DMA a fait plier Apple sur pas mal de choses. Les App Store alternatifs, la possibilité
C'est pas eux, ça existe.
Non, Augustin.
C'était de la régulation américaine. Non, mais
pas du tout.
Amazon, ils ont sorti leur App Store sur Apple avant la naissance du DMA.
La prise USB-C. Il n'y a pas d'App Store Amazon sur Apple.
À une époque, il y avait.
Après, un mot pour défendre quand même Apple.
En fait, quand Kindle a été lancé sur Apple, Amazon et Apple se sont frités très fortement Parce que Amazon est
oui, mais c'était une appli Amazon qui permettait de télécharger des livres.
Oui, fait. Non,
c'est ça. Mais tu vendais pas, c'était pas un App Store.
Non, si, tu pouvais télécharger n'importe quelle app, mais personne n'a vraiment joué au jeu, comme tu disais.
Et Apple les a bannis, enfin, il y a eu des conversations très, très violentes. De toutes les manières, t'es sur un monopole, t'as pas envie qu'on te le casse, d'une manière générale. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est que les outils pour les développeurs, c'est ce que tu disais et ce qu'on disait tous, grosso modo, la réponse d'Apple à ça, c'est désolé, on vous donnera pas nos dernières innovations. Mmh. Et effectivement, pour nous qui sommes des 500 millions de consommateurs, notre punition, elle est collective. Ne sachant pas correctement redistribuer les profits d'Apple au bénéfice des citoyens européens, on prend
Apple prend en otage les utilisateurs européens.
Après, tu retombes dans la culture. Tu parlais de un peu de culture. Tu te retombes dans la culture américaine. Hein. C'est nous, on était les plus innovants, on a été les premiers. Alors, on est les meilleurs. Bah, démerdez-vous. Hein. C'est un peu ce que.
Mais objectivement, moi, je préférais qu'on soit dans un truc où on les fasse payer pour les impôts.
Je trouve qu'on n'a pas prononcé le mot sécurité, mais tu vois, là aussi. Bon, Apple se défend là-dessus, mais il faut imaginer que les autres mettent les mêmes... Parce qu'au moins, on a ça avec Apple, c'est que protection des données, tout ça, a priori... on en reparlera sur d'autres domaines tout à l'heure, ils sont plutôt bons. Donc, si on commence à voir... si les autres trouvent qu'ils ne sont pas aussi bons, on va avoir nos yeux pour pleurer.
Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que le tribunal européen a retoqué Apple, parce que Apple, évidemment... lance les procédures. Je crois qu'il y en a encore une. Il y a d'autres procédures aussi. Parce qu'il y en a
sur iMessage aussi. Ouais.
Voilà, n'arrête pas. Parce que iMessage ne rentre pas n'est pas gatekeeper, visiblement. Ouais. Mais voilà, il y a un peu un flou là-dessus. Parce que rappelons que le gatekeeper, c'est le nombre d'utilisateurs au niveau européen. Hein. Dès qu'on franchit un certain nombre d'utilisateurs, on devient gatekeeper. On passe véritablement à autre chose et on va maintenant s'intéresser à l'IA chinoise. Car après les États-Unis, c'est au tour de la Chine maintenant de vouloir verrouiller ses IA les plus puissantes au nom de la sécurité nationale. Et selon Reuters, ces dernières semaines, les autorités chinoises ont tenu des discussions avec plusieurs entreprises comme Alibaba ou ByteDance autour d'une idée claire que va nous raconter Anthony Morel, limiter l'accès de leurs modèles de pointe aux étrangers. On écoute Anthony.
C'est vraiment une nouvelle preuve que l'intelligence artificielle est devenue un actif stratégique pour les États, au même titre que le nucléaire ou que les technologies de défense. Et donc, ça veut dire que concrètement, les futurs modèles de Qwen, Dubao, GLM, on les connaît moins chez nous, mais c'est l'équivalent de ChatGPT, de Gemini ou de Claude, passeront sous les fourches codines des autorités chinoises. C'est-à-dire que pour les modèles les plus basiques, il suffirait d'une simple déclaration, mais pour les modèles un peu plus avancés, il y aurait une évaluation de sécurité. Et pour les modèles vraiment de pointe, les plus sensibles, jugés potentiellement dangereux, là, il serait carrément soit interdit, soit réservé à quelques organisations chinoises et certainement pas à des acteurs étrangers. Pékin pourrait également imposer des restrictions sur quelles entreprises ont le droit ou pas d'investir dans des start-up chinoises d'intelligence artificielle. On en a eu un petit avant-goût, vous vous souvenez, avec l'histoire de Manus, qui était cette entreprise d'IA chinoise rachetée pour 2 milliards de dollars par Meta, et finalement, Pékin a fini par bloquer la transaction. Ça pourrait se générer. Donc si on résume, c'est chacun ses IA et les vaches seront bien gardées, c'est un peu ça. Et ça, c'est un changement de doctrine qui est radical, parce que jusqu'ici, la Chine misait au contraire sur une diffusion très large de ses modèles, avec des modèles qui sont moins coûteux en général, qui sont sur des licences d'utilisation très très libres. Et on le voit d'ailleurs, on voit que DeepSeek, par exemple, est très utilisé de plus en plus par les entreprises, parce que ça coûte beaucoup moins cher à faire tourner que Claude, tout simplement. Alors pourquoi ce revirement ? Il y a un effet miroir avec Donald Trump, l'affaire Mythos, l'épisode où effectivement, on a bien vu que Donald Trump voulait interdire l'utilisation de ces modèles les plus puissants aux étrangers. Les Chinois se disent pourquoi on ne ferait pas la même chose. Et puis, et la prise de conscience aussi par Pékin que leurs modèles d'intelligence artificielle n'ont plus rien à envier aux Américains. On a un modèle notamment qui s'appelle GLM 5.2 qui est très très performant. La conséquence de tout ça, c'est une IA qui va être découpée par blocs géopolitiques. Certains parlent maintenant d'un rideau de silicium, comme on parlait du rideau de fer pendant la guerre froide. Donc avec d'un côté la Chine, de l'autre les États-Unis, on peut se demander encore une fois quelle sera la place de l'Europe dans tout ça.
Et oui, alors on va évoquer la place de l'Europe dans tout ça, qui malheureusement est toute petite, mais Thomas, j'aimerais commencer par ton point de vue. C'est vrai que les IA chinoises, tu connais bien, tu les utilises au sein de Barracoda. Comment as-tu, encaissé cette actu qui n'est pas encore véritablement mise en place, je crois.
En tout cas, pas vraiment, parce que ce matin, j'étais avec le patron de Qwen qui était au salon de l'IA, parce qu'il y a un grand salon de l'IA à Paris. Donc, ils étaient tous là.
Pour rappeler ce que c'est Qwen ?
Alors, Quinn, c'est le moteur, le oui, moteur.
C'est pas une partie du cochon.
Open source, de, enfin pas que open source. C'est d'ailleurs ce que tu découvres. Ouais. C'est la famille de modèles créés par Alibaba, dont on sait maintenant qu'elles sont largement entraînées grâce aux données des qu'on appelle par distillation ouais. par, sur les Américains. Donc, pour le premier point, c'est que les Chinois sont en passe de gagner le marché des modèles open source ou ont gagné le marché des modèles open source. Les modèles open source, c'est la clé pour que l'Europe survivent au monopole américain qui est en train de s'imposer à nous. Et donc, en fait, cette mauvaise nouvelle, elle n'est pas mauvaise pour les Américains, elle n'est pas mauvaise pour les Chinois, elle est terrible pour les Européens. Si on ne s'émancipe pas du parapluie américain ou de la détestation de nos amis chinois. Donc, cette petite dispute, c'est un peu comme tous les bateaux qui sont dans le détroit d'Ormuz. Ils n'ont rien à voir avec l'Iran, ils n'ont rien à voir avec les Américains ou les Israéliens.
Et ils foutent la pagaille au niveau mondial.
Et ils sont au milieu. Et ben nous, on est en train d'être exactement dans le détroit d'Ormuz de l'IA. C'est-à-dire qu'on va être pris en otage par ce conflit, qui est un conflit géopolitique pour de bonnes raisons. Il faut voir qu'aujourd'hui, prenons l'exemple de Quinn, mais Biden, c'est... Donc aujourd'hui, le meilleur modèle en vidéo, c'est Google et Biden. Le meilleur modèle en générique, c'est Quinn et Claude OpenAI, enfin c'est deux Américains et un Chinois.
Okay.
Et donc, et sur l'embarqué, ce qui est quand même important pour nous, parce qu'on a quand même beaucoup d'autres. Là, c'est clairement les Chinois qui sont les meilleurs sur les petits modèles embarqués. Malheureusement, je ne parle pas de Mistral qui joue plus dans la même catégorie de qualité. Donc là, nous, on est en train. Pourquoi la nouvelle elle est catastrophique? C'est que si ce truc-là, ça s'envenime, si on ne change pas notre posture vis-à-vis des Chinois, on va être la victime collatérale de ce qui est en train de se passer.
Oui, parce que oui, on a du mal à avoir certaines IA chinoises qui sont bloquées par les Américains. Si on a les IA chinoises, enfin les IA américaines qui sont bloquées par les Américains, si on a les IA chinoises qui sont bloquées par les Chinois, qu'est-ce qui va nous rester ?
C'est ça le souci. Les yeux pour pleurer et un déclassement vis-à-vis de l'IA. Il faut voir aussi par rapport à l'open source et pas, Quinn est quand même devenu très prédateur parce qu'il s'est fait quand même pris la main dans le sac en train de s'entraîner sur Claude.
Oui.
Donc quelque part, c'est vrai que les Chinois jouent pas nécessairement.
Ils sont pas très fair play là.
Ils ont une notion du droit d'auteur qui est très spécifique.
Les Américains, c'est pareil. Hein,
mais DeepSeek avec la distillation. Hein.
Exactement. Tout le monde a utilisé la distillation pour vos utilisateurs. La distillation, c'est quoi? C'est très important. C'est qu'en fait, il suffit une fois qu'on a défait, qu'on a entraîné la première IA, ce qui coûte très cher, il suffit de prendre une autre IA qui s'entraîne sur les données de celle qui a été entraînée pour très cher, et ça coûte pas cher du tout.
C'est comme un élève qui est à côté d'un autre et qui recopie quoi.
Exactement. En fait. Sauf que quelque part, il devient aussi intelligent, contrairement à celui qui copie, que l'autre. En fait, pour prendre un exemple, Stanford, il y a 3 ans, avait démontré qu'il avait coûté 1 milliard de faire OpenAI et qu'il coûtait $500 de le répliquer.
Wow. Mmh.
Donc c'est une sorte de grandeur. Donc en fait, c'est pour ça qu'on peut faire du DeepSeek, c'est pour ça qu'on peut faire du Alibaba.
Et on se souvient que DeepSeek, à l'époque, disait qu'ils étaient tout aussi performants que ChatGPT et que ça avait coûté beaucoup moins cher. Ouais. Pour cette raison.
En partie. Aussi parce qu'ils avaient, si on regarde les dossiers de DeepSeek, les Chinois ont été, par rapport aux Américains, extrêmement ouverts sur la manière dont ils font les choses. Donc en fait, aujourd'hui, les Chinois sont les principaux contributeurs à l'amélioration de la connaissance du reste de la communauté IA non américaine des progrès des différents modèles.
On avait parlé quand DeepSeek était sorti, on avait parlé du moment Sputnik un peu de DeepSeek, et je crois qu'aujourd'hui on voit vraiment que ça a été un moment important, parce que DeepSeek, et moi je reviens sur l'histoire des entreprises, aujourd'hui françaises utilisent à fond les modèles chinois, parce que justement ils ont pris le kill switch dans la figure de Anthropic et de ChatGPT 5.6, et là aujourd'hui, enfin moi je les connais tous, ils sont tous en train de dire, nous c'est avec les Chinois, alors c'est de l'open source, c'est du chinois,
juste une petite question,
c'est pour des raisons différentes.
Après évidemment Augustin et Didier vont s'exprimer, mais juste une dernière question. Aujourd'hui on prend par exemple tu disais Mistral qui est complètement largué par rapport aux autres. Pourquoi Mistral,
c'est un peu
non, mais c'est ce que
il est plus dans le top.
Top 10, c'est le top 30.
Non, il était 80e, il est sorti du classement.
Mais pourquoi n'a-t-on pas fait cette distillation, nous, pour Mistral?
Parce qu'on respecte les règles.
C'est une posture intellectuelle, une philosophie, une éthique, c'est ça?
Alors, il faut voir que tout le monde a distillé sur tout le monde et tout le monde distille sur tout le monde. Tout le monde viole les droits de propriété intellectuelle.
Mais pourquoi? Il y en a qui le font mieux que d'autres, c'est ça?
En fait, il faut beaucoup d'argent quand même pour avoir des data centers et des tonnes de data centers.
Il faut que tu entraînes tout ça, il faut des composants et tout ça.
Et une des choses intéressantes, c'est en fait, il faut toujours un modèle plus intelligent pour entraîner un moins intelligent. Donc, pour rattraper, c'est très important d'avoir un modèle intelligent. Et les Chinois se mettant en challenger, c'est très facile de faire ça. Il y a un truc intéressant, c'est GLM 5.2, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un vrai concurrent de Claude Code, et qui, lui, ça, ça serait vraiment très dommageable pour l'Europe, parce qu'il n'y a pas d'alternative Mistral, qui s'est retrouvée sous embargo. L'autre chose par rapport, juste pour donner quelques éléments pour les téléspectateurs, les Chinois ont des modèles open source qui leur servent à conquérir le monde, et ils ont des modèles privés comme Claude, etc., qui sont bien meilleurs que ceux qui sont commercialisés. Mmh. La discussion que j'ai eue ce matin, c'était 30% meilleur que ce qui est public.
Augustin,
tu sais, toi qui étais à San Francisco en octobre, quand t'arrives à San Francisco, t'as les pubs pour plein d'outils IA. Aujourd'hui, ce qui est assez marrant, c'est que t'as plein de pubs pour les modèles open source chinois. T'arrives, t'as Minimax, GLM, enfin, je les connais pas tous, je les connais pas bien. Et ça crée une petite crise aux États-Unis, où en fait, les gens se disent, bah, entre mettre du GLM, Minimax, etc. sur mon serveur et payer uniquement le coût de l'énergie, le coût du calcul, et prendre du cloud ou du ChatGPT,
coûter une fortune
et payer leur énergie plus un espèce de premium, vaut mieux qu'en fait j'aille sur des modèles chinois et open source. Donc je trouve ça assez surprenant, cette volonté chinoise de dire on va commencer à gatekeeper, parce que ça redonne de l'énergie en fait au modèle cloud et OpenAI.
Ces IA chinoises, comme tout ce qui vient de Chine, va être interdit aux États-Unis. On est d'accord.
Non, c'est pas interdit, c'est open source. Ça n'a rien de chinois en fait. Ouais, une fois que c'est dans la liberté. C'est pas chinois, c'est tu prends le truc, tu le fous sur ton ordinateur.
Microsoft distribue dans sa gamme de Azure Cloud, disons.
Ouais, mais derrière, il y a quand même Binance, il y a quand même Alibaba, etc.
C'est pour ça qu'il y a des modèles privés, des modèles publics.
Tu peux aller sur DeepSeek et utiliser leur serveur pour faire le calcul, mais en fait, tu vaut mieux prendre leur algo. Et ça, je trouvais ça surprenant. Je me dis, mais c'est marrant, ils étaient en train de taper sur ChatGPT et OpenAI, et là, ça va leur redonner du souffle. Et t'as un peu l'Europe qui est en plein milieu.
Surtout, ce qui est grave, c'est que nous, en Europe, tu cites Mistral, tu vas peut-être citer, Aleph Alpha, si tu veux, les Allemands et tout ça, ou les Italiens. Mais en Chine, non. Alors évidemment, on parle de Kuen Alibaba, de Baidu et tout ça, mais ils en ont plein. Je regardais les boîtes là. Byron, Morsred, GLM4 de Zipouai, qui est le modèle qui est utilisé par les grandes boîtes françaises.
Ils ont 1,4 milliard.
Mais ils en ont plein.
Ils ont plein de data.
Et le problème, c'est le plus grand nombre d'ingénieurs au monde.
Mais moi, je reviens encore sur ce truc-là. C'est à nous de nous poser la question de dire bon les gars, là si les Chinois, on a eu le kill switch américain. Je sais pas si on aura un kill switch chinois parce que c'est open source, etc. Mais il est peut-être temps de se bouger un peu.
Je peux te donner le point positif. Le point positif pour moi, c'est qu'en fait, les modèles, ils commencent pas à stagner, mais ils commencent tous à arriver à un niveau de AGI, API, qui se rapproche du parfait. Pas tout à fait. Et donc, en fait.
Ouais, mais c'est là où il faut que tu verticalises vers l'IA industrielle, vers l'IA de santé, vers des IA comme ça.
Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on fait tout de suite la comparaison avec la stratégie américaine, qui est de dire nos IA sont tellement puissantes qu'il vaut mieux les restreindre et les empêcher d'être utilisées dans d'autres pays que les États-Unis parce qu'il y a des risques, etc. C'est pas ça que les Chinois ont en tête. Je pense que effectivement, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils voient leur savoir-faire, qui commence à devenir au moins équivalent à celui des Américains, utilisé effectivement, comme tu le dis, n'importe où, n'importe comment, dans des conditions qui ne leur apportent rien. Ça peut être peut-être du soft power, un peu de propagande en disant « Regardez, nous les Chinois, on est forts, on est au niveau des Américains ». Mais le revers de la médaille, c'est qu'ils ont besoin de rentabiliser ces choses-là. Parce qu'au bout d'un moment, le problème de l'IA, c'est que ça coûte très cher. Et que même, t'as beau être chinois, t'as beau être sponsorisé par l'État, etc., il va falloir à un moment trouver un modèle économique qui va fonctionner. Et là, en l'occurrence, alors, il y a aussi autre chose, c'est que ils ont pas du tout envie que les Américains interfère avec leur IA. On se rappelle de l'histoire de, je cherchais le nom, mais c'était Manus AI, qui était l'IA qui avait été développée en Chine et que Meta voulait racheter. Les dirigeants de Meta ont rassuré les Américains, ont rassuré Trump en disant on va virer tous les Chinois qui allaient là-dedans, on va empêcher que le modèle fonctionne en Chine. Les Chinois, quand ils ont vu ça, ils ont dit « Mais arrêtez, c'est quoi cette histoire ? C'est nous qui l'avons créé, ce sont nos ingénieurs, nos produits, vous n'allez pas nous foutre dehors alors que c'est notre bébé. » Donc il y a un peu cette crainte pour les Chinois de voir leur savoir-faire devenir, être pillé par les Américains.
C'est pas forcément ça qui les inquiète, les Chinois. C'est plus que ces IA puissent être utilisées contre eux. Je pense que le côté copier, tout ça, ils sont...
Non, mais contre eux, non, c'est aussi une question commerciale, je suis désolé. Ouais.
Ouais, je pense que c'est pas dans la tête.
Allez, on arrête là, il est 20h. Petite pause avec Fred, Augustin, Thomas et Didier ce soir pour débriefer l'actu. Et c'est vrai que c'est un sujet, voilà, on aurait pu le développer encore pendant de longues minutes. Petite pause, on revient et on s'attaque à Meta. Meta qui aurait dans ses cartons des lunettes qui nous regarderaient, nous écouteraient bah, tout le temps. En fait, ça paraît un peu étrange, mais on va tout vous expliquer dans une minute. A tout de suite pour la suite de ce débrief de l'actu tech de Tech & Co.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
20h02, le retour de Tech & Co, la quotidienne. On débriefe l'actu tech jusqu'à 21h ce soir, hein, puisque vous le savez, nous sommes à l'avant-dernière émission avant les vacances. Et donc, on vous propose de longs débriefs de 90 minutes avec nos experts. Ce soir sur le plateau, Thomas Serval, PDG de Barracoda, Didier Sang, journaliste tech, Augustin Seyer, cofondateur d'OVNI, et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. On enchaîne avec Meta, qui prépare une nouvelle génération de lunettes connectées dopées à l'IA. Elles ont une particularité, elles pourraient voir et entendre tout ce que leur utilisateur vit toute la journée. C'est une technologie pensée comme le futur de l'IA en fait, mais qui soulève déjà de nombreuses questions sur la protection de la vie privée. Léa Benaïm nous explique tout ça.
Meta surfe sur le succès de ses lunettes connectées pour aller encore plus loin. Selon le Financial Times, le groupe développe une nouvelle génération de lunettes capables d'enregistrer en continu ce que l'utilisateur entend et voit tout en prenant des photos toutes les secondes. Autant de données qui permettront ensuite à l'IA de retrouver un souvenir, un objet ou une conversation sur demande. L'objectif, faire de ces lunettes une véritable mémoire numérique. Mark Zuckerberg les imagine déjà un jour remplacer le smartphone. Ces fonctions pourraient même arriver sur certaines Ray-Ban Meta déjà commercialisées grâce à une simple mise à jour. Mais le projet inquiète car Meta réfléchit à faire disparaître le voyant lumineux, donc des personnes pourraient être filmées ou écoutées sans le savoir. Et l'entreprise pourrait aussi utiliser les données collectées pour entraîner ses propres modèles d'IA. Face aux critiques, Meta assure qu'il ne s'agit encore que d'un prototype et promet une approche respectueuse de la vie privée.
Voilà les explications de Léa Benaïm concernant ces futures lunettes. Alors, rien n'a été confirmé véritablement par Meta, hein. Ce sont encore des rumeurs, mais Mark Zuckerberg l'a dit, il aimerait avoir un objet comme ça qui suit notre quotidien, qui nous écoute, qui nous regarde. Et effectivement, aujourd'hui, le bingo pour lui, c'est les lunettes connectées. Alors, pourquoi ne pas rajouter cette couche-là ? Alors que finalement, sur les lunettes connectées, il y a déjà des caméras, des micros, il y a tout ce qu'il faut en fait.
C'est pour ça que ça s'appelle Ambient AI. C'est une tendance qui a été dont on pensait qu'elle allait être poussée par OpenAI avec Johnny Hive. Finalement, Meta avance le truc. Alors il faut rappeler un problème. Ça me fait penser vraiment aux annonces parfois un peu science-fiction de Elon Musk. C'est il y a déjà, c'est difficile en utilisation partielle de tenir la vie de la batterie. Ouais. Mais alors là, tu les laisses allumer tout le temps et autres. Ouais. On est à deux générations de batteries ou de composants électroniques d'y arriver. Il y a des choses en power harvesting qu'on peut imaginer, mais il n'y aura pas de lunettes connectées qui fonctionnent comme ça si on n'arrive pas à trouver des modèles qui sont capables de s'auto-régénérer.
Ça, c'est vraiment pas un problème. Ça viendra.
Oui,
tout prouve que quand on regarde les voitures électriques, au début on disait on ne pourra jamais faire une voiture électrique, ça consomme trop d'énergie, il y a besoin de batteries énormes. Du jour au lendemain, Tesla arrive, ils disent moi j'ai mis plein de piles dans le coffre et ça marche. Et maintenant, la voiture électrique devient énorme.
Ah non, mais je suis d'accord, mais je connais bien ce sujet parce que j'en ai fabriqué. Il faut que, pour que tu acceptes de garder tes lunettes tout le temps sur toi, il faut qu'elles pèsent 30 à 40 grammes.
Ok, qu'est-ce qui t'empêche de déporter la batterie?
Ouais, mais bon, est-ce que tu te vois
un fil,
et c'est un peu comme le Vision Pro, en fait.
Apple le fait, il y en a d'autres qui le font.
Comme les gens qui ont les petites chaînes de lunettes, là, tu sais, pour les...
Ah oui, c'est ça. Oui, en fait, tu aurais une chaîne batterie.
Oui, une chaîne batterie.
Qui te rajouterait 3-4 heures.
Un sac à dos derrière.
Qu'est-ce que tu fais? Je recharge ma chaîne. Non, mais pourquoi pas?
Il faut qu'on arrête avec ces histoires-là. Maintenant, ça commence à bien faire, parce que les histoires...
Didier, ce soir, je sais pas, c'est la canicule, il est... Non, mais c'est bien, Didier. Vas-y.
Mais c'est trop cool, on filme, on parle, on écoute tout ce qui se passe, c'est génial, c'est la liberté, ils te le vendent comme ça. Il y a une pub qui a été diffusée
pendant... C'est tout à l'heure, les coups de gueule.
Pendant... parce que là, ça commence... Et alors, ils te font croire que c'est génial, que c'est l'avenir, que c'est la liberté, etc. La liberté de qui ? Des mecs qui sont filmés sans donner leur consentement ? Parce que il y avait déjà eu l'histoire de ces Ray-Ban Meta où soi-disant t'as une diode qui s'allume, sauf que la diode en plein soleil, personne la voit. Que les gens, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des scotch dessus. Alors maintenant, on peut plus soi-disant parce que le
système réagit. Et Meta fait la chasse aux hackers qui justement essaient d'enlever la lumière.
Sauf que
là, ils vont pour tous ceux qui veulent filmer.
D'accord, mais d'après les témoins de cette nouvelle génération de lunettes, ils se posent la question de savoir s'ils vont mettre une diode ou pas. C'est-à-dire que là, du coup, on n'aura même plus moyen de savoir si on filme ou pas.
Didier, on rentre dans un monde où on va être vu, contrôlé absolument partout. Hein.
Oui. Regarde, même plaisir. Et ça te fait plaisir.
Est-ce que j'ai dit que ça rien
Et tu
j'ai dit que ça me faisait plaisir.
Non, mais
regarde, par exemple, tu vois, souvent il y avait de la pub dans le métro, la start-up Friend.com.
Oui, mais arrête, ça c'était.
Non, mais c'est le début.
C'est du bullshit, ça.
Non, mais c'est avant les lunettes. Ouais. C'est-à-dire, les mecs qui te portent ce truc-là, bah, ils enregistrent toute leur conversation.
Ouais.
C'est évidemment moins fort que si tu vois quelqu'un avec
tes lunettes. Non, mais là, le problème, c'est que là, ça vient d'une multinationale connue. Précisément pour son business model. Alors, revenons là-dessus, deux minutes, parce que ce que nous dit Meta, c'est la sécurité, la vie privée sont des choses importantes pour nous. Hein. On connaît Meta, effectivement.
Ah oui, c'est important pour qu'on gagne de l'argent, oui, c'est pour ça que c'est important.
Et donc, le comble de l'hypocrisie, c'est qu'il t'explique en gros que pour protéger la vie privée des gens, tu ne pourras pas récupérer directement les données que tu as enregistrées, filmées, écoutées, etc., qu'elles seront transmises sur un serveur de Meta, et que c'est Meta qui sélectionnera et qui dira ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc.
Mais Didier, t'as pas assez vu de films de science-fiction? On va vers ce monde-là.
Eh ben, n'y allons pas. Faisons quelque chose.
Tu vois
non,
ce que
mais après, on accepte de se faire marcher sur les pieds et on dit, ah bah ouais, c'est comme ça, on n'y peut rien. Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Le coup de gueule.
Oui.
Non, mais c'est vrai, est-ce qu'on est prêt à accepter ce type d'intrusion, finalement?
C'est l'arnaque la plus totale. Mais c'est même pas une intrusion. Je finis là-dessus. C'est pas une intrusion. C'est un modèle économique. C'est-à-dire que pour eux, on s'en fout complètement de la vie privée des gens. Ce qui compte, c'est qu'ils récoltent le maximum de données possibles, comme ils l'ont fait sur Facebook, comme ils l'ont fait sur Instagram, comme ils le font tous les jours chez Meta. Et ensuite, de monétiser ces données, de faire des profils, de les vendre à droite à gauche et d'enregistrer leur IA avec les données qui sont collectées.
Moi, je pense qu'il risque...
Voilà ce que c'est ce produit, c'est absolument pas un produit de liberté, un produit cool, un produit qui va te permettre d'être plus à l'aise dans ta vie. C'est un produit qui va permettre d'enrichir M. Zuckerberg et ses copains et de devenir encore plus puissant.
Je suis totalement d'accord avec toi, mais moi ce que je
Disons-le alors.
Subissons
pas.
Attendez, non, le seul truc c'est que est-ce qu'on est prêt, est-ce que la société est prête à accepter ce type de produit? Non mais franchement,
Je termine.
Ray-Ban Meta, excusez-moi, quand j'ai une paire de Ray-Ban Meta, ok, je m'en sers comme paire de lunettes de soleil parce que j'ai des verres transition ici, là, etc. C'est top. Mais de temps en temps, quand je suis en communauté, il y a plein de gens qui disent mais tu me filmes avec tes lunettes,
voilà,
c'est gênant.
Eh ben, écoute,
enfin, je veux dire, j'ai l'impression que la société n'est pas prête à subir ce type d'objet, finalement.
Nos cerveaux ont communiqué, parce que c'est exactement ce que j'allais dire.
Moi, mais
je les porte très souvent, et pareil, comme François, plutôt lunettes de soleil. Et encore ce matin, je me suis arrêté un feu, j'étais en train de regarder, tu vois, j'attendais, et il y a le gars en vélo à côté de moi, il m'a dit, vous êtes en train de me filmer, là? Et je l'ai de plus en plus. Je suis au café l'autre jour, j'ai des lunettes qui sont pas des Meta, mais qui étaient un peu.
Alors pourquoi tu les mets? Quel intéressant?
Bah parce que moi je réponds à mon téléphone, j'écoute plein de trucs, je prépare.
Non, mais après c'est un objet pratique.
Moi je discute avec.
Attendez, les amis,
t'as des écouteurs.
Moi je discute avec, ça me sert.
Il manque sur le plateau un angle essentiel de la société. On a tous au-dessus de 40 ans ici, je crois.
Non, en fait, je pense que je vois pas ce qui permet de dire ça.
Tout juste.
Non, mais c'est vrai.
Est-ce que
la nouvelle génération est prête? Je suis pas persuadé, Augustin. Parce que moi, j'ai eu des réflexions de la part de jeunes adultes qui m'ont fait cette réflexion-là. Qui m'ont dit, t'as des lunettes Meta, est-ce que t'es en train de nous filmer?
Oui, mais t'as toujours.
Ils avaient moins de 40 ans.
Je peux peut-être intervenir sur deux éléments d'expérience.
Mais
c'est qu'en 2013, j'ai un peu plus de 40 ans. En 2013, il y a les Google Glass, et il faut bien se rappeler que Google avait cette promesse de pas de filmer tout le temps, mais déjà de filmer, et c'était le rejet. Et Google a eu peur pour sa marque de faire ça. Meta, ce qu'ils ont bien fait, c'est qu'ils l'ont packagé. Donc, c'est des Ray-Ban avec du Meta dedans. C'était pas des lunettes pour te filmer. C'était le grand savoir-faire de Meta. Après, sur ce qui est en train de se passer, il faut voir qu'aujourd'hui, dans ce qu'on appelle Hardware AI, il y avait un salon hier autour du Hardware AI à Paris, tous les donc c'est les robots en fait, grosso modo. Tout le monde cherche à acheter, tu parlais de faire du business. On veut des expériences de vie, donc on veut des gens qui se filment tout le temps. Et ouais. Aujourd'hui,
et pour entraîner business, des modèles, pour entraîner
des robots. Modèles
multimodaux. Bien sûr. Bienvenue à Gattaca.
Donc,
non, mais attends, mais j'ai vu une vidéo sur Internet la dernière fois. C'était des Indiens, je crois,
oui.
Qui avaient des
ils se filment en train de faire des choses.
En train de faire des choses. En train de faire la lessive, en train
ils ont déployé
de faire la cuisine.
Il y a eu une expérience. Tu parlais d'Indiens. Il y a eu une expérience dans une. Alors, je ne saurais pas vous dire où, mais dans une tribu africaine, justement, pour la transmission. Et ils ont donné des lunettes connectées et les gens sur les champs des griots, sur des gestes ancestraux, ils ont mis des lunettes connectées pour justement avoir cette mémoire numérique.
D'accord.
Ça leur servait à ça.
Bullshit. Attends, mais regarde, l'art peut le faire avec une caméra et un magnétophone.
Enfin,
Magnétophone, Didier, ouais. Attention où tu vas.
Tu vois ce que je veux dire.
Il faut rembobiner après avec un magnéto.
Non, mais l'idée de c'est moderne donc c'est mieux. Arrêtons avec ça.
C'est moderne, c'est mieux. Je dis, il y a des usages où ça peut.
Ce n'est pas un usage, c'est un produit marketing.
Alors Thomas, tu termines ta réflexion.
Non, mais sur ces sujets-là, que ça soit un produit marketing, c'est en train d'arriver et c'est en train d'être acheté. Là, ce qu'est en train de faire Meta, c'est une sorte de coup de judo pour inverser le truc. C'est quelque part, au lieu de payer des gens pour faire ça, ils sont en train de demander à ce que les gens les payent pour
absolument,
faire ça.
Absolument.
Donc ça, c'est vrai que peut-être qu'il y aura, et à mon avis, je peux te garantir qu'il y aura des lunettes gratuites pour tous les gens qui accepteront de filmer leur vie. Et il y aura des startups qui vont se créer autour de
Filmer. Il y aura un business.
Et les gens vont
faire ça.
La question sur l'espace public,
comme les Apple Watch qu'on donne gratuitement à des gens aux États-Unis.
Par contre, la question qui se pose et qui va être une question légale, c'est autant quand tu le fais dans ton espace privé, c'est toi qui décides. Mais qu'est-ce que tu dois penser? Comment on va réguler le fait que sur l'espace public, finalement, la liberté des uns commence là où s'arrête là où commence celle des autres? Là, ces trucs-là, c'est totalement invasif sur celle des autres et c'est pas du tout contrôlé. Donc, il y aura des pays qui vont l'accepter. Par exemple, en Chine, t'es filmé tout le temps, donc en fait, ça change rien.
Ouais.
Et il y aura des pays qui vont pas l'accepter.
Mais tu sais là où ça va arriver. C'est pas tout à fait pareil. Je vous coupe parce que cette paire de lunettes, tu l'as, t'es à un dîner. Il n'y a pas des caméras en Chine qui filment ton dîner pour t'écouter, ou alors il faut manger dans la rue.
Ils pourront l'imposer.
Non, mais t'es chez toi, à ton domicile. Tu m'invites, on se retrouve, on dîne, ok? J'ai mes lunettes Meta. Est-ce que ça va pas gêner l'un d'entre vous?
Oui, tu seras plus invité. C'est comme le mec qui est vegan et à chaque fois les gens au bout d'un moment ils arrêtent de l'inviter.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, intrusif. Que moi j'accepte de porter des lunettes connectées, c'est un fait. Mais est-ce que toutes les personnes que je vais rencontrer dans la journée vont accepter le fait que je puisse porter des lunettes qui vont les filmer?
Non, mais non. Ça va plus loin. Ça veut dire que maintenant, comme la législation impose la ceinture de sécurité en voiture, il va arriver un moment où il y a un gouvernement chinois, Corée du Nord, ce que tu veux, qui va dire quand vous allez dans un dîner, vous mettez vos lunettes et vous nous filez les enregistrements.
Tu sais sur la liberté en public, je pense qu'en fait même le débat on est en retard. Tu sais, quand tu regardes les Waymo à San Francisco, les Waymo... Elles filment partout. Et en fait, aujourd'hui, dans le business model de Waymo, c'est non seulement ça permet tous les business de driverless voiture, mais surtout, c'est la police te dit on veut accéder à votre outil parce qu'on aimerait savoir ce qui s'est passé à 15h55 à ce corner et ce corner parce qu'il y a eu un vol. Donc en fait, on est déjà tout le temps filmé, même dans les pays occidentaux, et les voitures autonomes vont accélérer ça. C'est-à-dire que je pense qu'il faut se dire, tu sors de chez toi, t'es filmé.
Mais je pense que dans une voiture, il y a une bonne raison, c'est notamment le vandalisme, c'est le fait que c'est une voiture qui ne t'appartient pas.
Mais tu pourrais,
tu peux pas faire n'importe quoi. Ouais, mais je trouve
Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as beau n'avoir rien à voir avec Waymo, tu seras en train de marcher tranquillement, s'il y a un ou deux Waymo qui passent à côté de toi, en plus des caméras qui sont installées dans la rue, on saura en permanence avec qui tu es, où tu vas, où tu marches. Et donc, qu'il y ait des lunettes ou pas de lunettes, en fait, Didier, le projet sociétal, on est déjà, projet sociétal Gattaca, on est déjà à 80% dedans.
Il serait peut-être temps d'y mettre un terme.
Un exemple typique, à Shenzhen, tu es pris en photo une fois par seconde.
Une fois par seconde.
T'as les caméras tout le long des avenues.
Une fois par seconde. Donc, quelque part, si tu as l'illusion... Alors par contre, il n'y a plus de vol. C'est-à-dire que si jamais il y a un mec qui fait un truc, l'exemple typique, donc c'est vrai en tout cas, certaines sociétés l'acceptent. Nous, on n'est pas encore à ce niveau d'acceptation sociale. Mais je pense qu'il va y avoir une redéfinition de ce qu'est la liberté, ce qu'on a le droit de filmer, etc. Ça va être un vrai sujet.
Tu sais, regarde aujourd'hui les réunions Teams, ou avant, demander la permission. Je vais enregistrer, tout le monde est d'accord? Ben non, on ne demande plus la permission. On enregistre en direct. Et je pense que l'UNED, à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une éducation
ça
à faire?
Ça n'a rien à voir.
Non, mais je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'éducation? C'est-à-dire, quand tu mets tes lunettes, que tu es à un dîner, tu dis, est-ce que ça vous dérange si je continue à porter mes lunettes ou pas? Et, mais peu à peu, ouais, ça
mais
va
attends, rentrer. Mais c'est réaliste. Excusez-moi. Mais est-ce que ça vous embête si je porte des lunettes ou pas?
Mais moi, je pense qu'on va en rentrer, dans un truc.
Moi, je pense que notre société n'est pas prête pour ça. Et je pense pas que ça fonctionnera.
François, regarde ce qui s'est passé, c'est peut-être politique, mais regarde ce qui s'est passé au Honduras, au Salvador et Bukele.
Oui.
En fait,
oui.
Il te dit, bon bah, tous les gens qui ont des tatouages sur la tête, à 98% de chance, c'est des gens qui sont dans des gangs, on les fout en prison. Donc t'as 2% des gens qui sont pas dans des gangs qui sont en prison. Et ben le reste de la population, je peux te dire qu'ils sont super contents de se dire, bon bah il y a...
Oh, quel bel exemple de démocratie, de liberté.
Ce que je veux dire, c'est la définition de la liberté pour un peuple qui s'est toujours dit démocrate. C'est sa définition de la liberté, elle a vite changé une fois qu'on a touché à la criminalité de leur pays.
Bon, après, ce pays a été gangréné par la mafia, par les meurtres.
Oui, mais aujourd'hui, il y a des gens innocents.
C'est terrible.
Tu peux faire l'argument, il y a des gens innocents.
Oui, bien sûr.
En prison. Et en fait, cette liberté est redéfinie. Et toutes ces lunettes, ces caméras, etc., ça va un peu dans le même...
Bon, écoutez, moi je parie, je mettrai pas un billet là-dessus sur le succès de ces nouvelles lunettes.
Techniquement, t'as besoin de 2 ans, donc faut quand même se tenir. On n'y est pas encore.
On verra dans 2 ans.
J'aimerais qu'on revienne rapidement sur cette histoire de comme quoi les jeunes générations seraient plus insensibles face à la
ou le seuil d'acceptabilité qui serait plus élevé.
C'est faux, c'est complètement faux. Moi, j'ai l'exemple toujours. Moi, je donne des cours et régulièrement, les gamins, quand je vois, quand ils ont la fameuse page. Acceptez-vous de donner vos données, vos cookies, vos machins. Ils cliquent sur machin et ils désactivent tous les trucs.
Non, mais les cookies, ça c'est autre chose.
Mais c'est la même.
Les gens, ils répondent non juste pour faire chier. En revanche, je ne pas sur leur Instagram, tu verras le nombre de trucs qu'ils partagent de tes élèves. Hein.
Bon, écoutez, puisqu'on arrive aux cookies, on va changer de sujet parce que là, on part loin. 20h19, toujours Fred, Augustin, Thomas et Didier. Nous allons parler maintenant de cette actrice d'Hollywood très sulfureuse qui s'appelle Tilly Norwood. Vous la connaissez, Tilly Norwood? Elle a été générée à 100% par une IA. Et son premier film vient d'être annoncé. C'est quand même énorme. Anthony Morel nous explique tout ça et on débat là-dessus. Je pense que ça va être aussi animé dans un instant.
C'est la première actrice artificielle, si l'on peut dire, Tilly Norwood, alors que je vais décrire, pour ceux qui nous écoutent, c'est une jeune femme de 25 ans, elle est censée incarner la girl next door, c'est l'archétype
au cinéma.
C'est un
mélange de tout le monde.
C'est un peu ça. En fait, c'est un visage composite qui a été généré par une intelligence artificielle, mais si je ne vous disais pas qu'elle a été générée par une IA, je pense que c'est quasiment impossible à voir à l'œil nu, c'est très très bien fait, et évidemment, l'avantage de cette comédienne artificielle, c'est qu'en quelques clics, on peut l'intégrer dans n'importe quel clip, n'importe quelle série, n'importe quel film, on lui donne un texte, elle va le réciter. On peut la faire rire, on peut la faire pleurer. Et donc là, on la voyait surtout sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Alors, ses créateurs, c'est une entreprise qui s'appelle Zikoya, l'ont rendue un peu virale. Mais là, l'annonce, c'est qu'effectivement, elle va figurer dans son premier long métrage, donc qui s'appelle Misaligned, donc désaligné. C'est un film qui parlera d'intelligence artificielle. Je vous fais l'économie du pitch. On ne s'attend pas à un chef-d'œuvre non plus, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, ce sera le premier film avec une star intelligence artificielle. Évidemment, c'est un rêve pour tous les studios de production. Imaginez une comédienne ou un comédien, parce qu'on pourrait en faire un homme également, disponible 24 heures sur 24, qui dit oui à n'importe quel tournage, qu'on peut intégrer de manière hyper réaliste à n'importe quel film, qu'on peut
sans être payé, ça,
qu'on peut
bien,
faire vieillir, rajeunir, grossir, maigrir en fonction des besoins et des tournages. Bon bah forcément, on peut pas rêver mieux. Alors après, évidemment, ça fait polémique. Aux États-Unis, il y a un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui se sont indignés en mode il faut boycotter les studios de production qui feront appel à cette intelligence artificielle. Les syndicats de comédiens également. Qui disent, alors je cite le plus gros syndicat de comédiens, qu'ils s'opposent au remplacement des artistes humains par des artistes synthétiques.
Voilà, alors l'IA dans les métiers du divertissement, le secteur du divertissement, du cinéma, de la musique, on le sait, ça existe depuis un moment, mais là on franchit quand même une nouvelle étape. L'IA ne sert pas à faire que des effets spéciaux ou des arrière-plans. Là, la comédienne principale, qui n'existe pas, rappelons-le, elle s'appelle Tilly Norwood, eh bien, elle est issue de l'intelligence artificielle. Le film a été dévoilé le 6 juillet dernier, alors... Voilà, c'est qu'un projet, mais déjà on voit que toute l'industrie d'Hollywood monte au créneau. Est-ce que ça va se faire, ça, à ton avis, Thomas?
En fait, alors là, on va en reparler des Chinois. Donc en fait, en Chine, c'est ce qu'on appelle les digital humans. pour faire du téléachat, grosso modo.
Oui. Tout ce qui est live shopping.
Live shopping. Tu as déjà des call centers avec que des IA, etc. Donc, quelque part, maintenant, avec VO, Banana, etc., on est capable de faire des films de 10 secondes, maintenant 30 secondes. C'est ce qui est possible, etc. Donc, tu peux fabriquer des scènes, tu peux faire des scripts, tu peux fabriquer des humains, tu peux les cloner. Donc, toutes les pièces du puzzle sont là pour qu'il y ait une œuvre créative, mais ça ne fait pas un bon film. C'est là où il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire, quelque part, on a fait des dessins animés avec des images. Enfin, il n'y a pas beaucoup de différence entre ça et un dessin animé en images de synthèse de très bien réalisé de Pixar. Ce qui compte, et ce qu'on oublie toujours dans les films quand on est très trop geek, ce qui compte, c'est d'avoir un bon scénario, des choses qui sont intéressantes.
Par contre, et l'émotion aussi.
Et l'émotion, enfin, un scénario. Par contre, ce qui va changer, et ça, ça va. Enfin, depuis 2 ans à Cannes, maintenant, il y a le CES qui est présent. C'est pas un hasard, la tech est en train de rentrer dans le film, mais de rentrer profondément. C'est que le coût de fabrication d'un film qui nécessitait de payer des stars, des choses comme ça, devient de plus en plus un coût logiciel. Et donc, quelque part, le Netflix va pouvoir se produire, puisque eux, ils fabriquent des scripts très détaillés. Enfin, moi, je travaille un peu, je suis sur Arte, on voit bien. Les scripts sont de plus en plus précis, elles sont de plus en plus adaptées à une IA. Et donc, effectivement, il est très probable que dans les 5 prochaines années, la production d'abord de publicité, ça sera pas les films long forme parce que c'est long, mais on voit bien sur les shorts, tous les trucs que tu vas consommer comme un fou sur TikTok, sur YouTube, etc.
Il y a même des pubs déjà qui sont diffusées à la télé, qui sont générées par l'IA.
Là, c'est un peu de com autour de quelque chose qui existe déjà. C'est juste quand on te fait une sorte de wake up call en disant maintenant les conditions technologiques sont remplies, ça va arriver et il y aura des bons films, des mauvais films. Par contre, ça va changer le modèle économique. Qui va redonner beaucoup de pouvoir aux producteurs et au marketing du film.
Là, il s'agit d'un long métrage. Hein. Donc, on n'est pas dans un short film ou un truc comme ça qui sera sur TikTok. C'est un long métrage qui sera peut-être disponible sur une plateforme ou au cinéma. Mais voilà, on se retrouve avec un vrai film. Didier.
Un vrai film entièrement réalisé à l'IA. C'est un vrai film où elle est intégrée.
Oui, elle est intégrée, mais elle aurait le rôle principal. Ouais,
mais elle est intégrée dans le film.
C'est à la fois de la provoque et du marketing. C'est-à-dire que les dinosaures dans Jurassic Park, c'était aussi des images 3D générées par des ordinateurs. Personne n'a rien dit. Au contraire, tout le monde hurlait. Ils n'étaient pas.
Ensuite,
ils n'avaient pas le droit d'utiliser des vrais.
Dans Star Wars, c'était des vrais. C'était pas des vrais vaisseaux.
Et non. Donc voilà, que ce soit un personnage qui est effectivement comme ça me rappelle un peu le vous vous rappelez à une époque c'était la mode de ces films dans lesquels il y avait des personnages de dessins animés genre Roger Rabbit, etc. Voilà, donc c'est un peu le même
Peter
principe.
Peter et Elliot le dragon.
Voilà. C'est un peu le même principe. Ça me choque pas, sauf que il faut qu'il y ait la qualité derrière. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est généré par une IA? C'est généré par ordinateur, tu vois. L'IA, elle a bon dos, c'est-à-dire elle accepte le prompt et elle fait l'image en fonction de ce qu'on lui demande.
C'est-à-dire que l'IA arrive à aujourd'hui à faire des choses tellement réalistes et surtout beaucoup moins chères que ce que ça coûtait à l'époque quand tu faisais appel à des studios 3D, quoi, tu vois. C'est ça la différence.
Ouais, tu te souviens du monde où en fait on regardait tous la même chose. Je pense début 2000, tu sais, il y avait des émissions, et on regardait tous la même chose. Et je suis convaincu.
Tu parles de quoi, de télé-réalité, des trucs comme ça,
ou des télé-réalité.
Le film du dimanche soir.
Non, d'émissions. D'émissions lundi, je sais plus.
Le 20h.
Comment j'ai rencontré How I Met Your Mother, tu sais, des trucs comme ça.
Ah oui, d'accord. Ouais. Des séries donc.
Des séries, non mais des séries. On regardait tous la même chose. Et en fait, petit à petit, Netflix te permet un peu de comment ça s'appelle, de personnaliser un petit peu plus. Mais tu restes quand même dans des espèce de groupe, tu vois, le groupe homme 30 ans, femme 20 ans, etc. Et en fait, je pense que tu vas vers un modèle sociétal où les gens veulent consommer du contenu de plus en plus personnalisé. On arrive sur du TikTok, etc. Et en fait, ça, pour moi, c'est la dernière brique. C'est qu'en fait, n'importe qui peut produire un film. Mmh. En vrai, petit à petit, les gens, un étudiant en Roumanie va pouvoir produire un film de la même qualité que Star Wars de 1960, je sais pas quand le premier Star Wars est sorti. Et en fait,
76, 17.
Est-ce que c'est pour le bien de chaque personne d'avoir, en fait, ce qui est triste, c'est que tu vas regarder ton film, tu seras le seul à éprouver du plaisir à regarder ce film, et tu vas dire à Fred, j'ai vu un film, franchement, c'est génial, tu vas regarder. Fred, il va dire, t'es gentil, mais moi aussi, j'ai vu mon film, c'est le film parfait pour moi. Et donc, je pense qu'on va vers ce monde-là.
C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'IA, tu auras ton propre film
qui est pour toi, qui est pour tes émotions, qui va te procurer une sensation de plaisir.
C'est le livre dont tu es le héros en film, quoi.
Ouais, un peu. Black Mirror, ils avaient fait un épisode quasi là-dessus, mais c'était pas tout à fait ça. Et qu'en fait, ça va couper du lien. ça va couper du liant, en fait. Parce que c'est vrai que...
Ouais. Aujourd'hui, à la machine à café, tu discutes sur une série qu'on a tous vue, parce que, voilà, on partage des points de vue.
Et encore, je trouve qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, t'as vu cette série? Les gens en ont marre, parce qu'il y en a tellement, tu vois.
Je suis pas complètement d'accord avec toi. Je pense, peut-être qu'on est un peu dans cette personnalisation. Je pense plus que s'ils le font là, c'est vraiment une histoire de coût. C'est pour pouvoir disposer de...
C'est la même chose, c'est-à-dire que l'étudiant en Roumanie pourra produire pour 300 balles quelque chose qui coûterait...
Il y a des exemples qui sont sur tous les clones. En fait, un acteur, il est cher, prend une star.
Ça coûte quand même de l'argent de faire ça.
Non, mais ça coûte un peu d'argent. Mais
aujourd'hui...
Prends l'exemple entre Tom Cruise ou le clone de Tom Cruise. Et plutôt que de créer un gros studio. Tu vas fabriquer une star, comme on le faisait dans les années 50 à Hollywood.
Tom Cruise, hein.
Pardon?
Quand il saute d'un hélicoptère, faut l'assurer, Tom Cruise.
Oui, non,
mais ça coûte.
Exactement. Et en plus, il y a des fois où il est malade, il y a des fois où il râle, etc. Là, tu crées un objet immatériel, qui est cette personne, qui va dire oui à tous tes scénarios, parce qu'elle va pas te. Non, mais tu crées le rêve du producteur d'Hollywood. C'est-à-dire, quelque part, c'est quelqu'un qui va obéir au doigt et à l'œil, qui aura des aventures avec d'autres acteurs virtuels, comme ça tu pourras nourrir les tabloïds, tu pourras écrire une histoire de cette personne, et tu la posséderas en totalité. Le rêve absolu du producteur.
Ouais. Tu sais, juste un truc qu'on rate, et je me souviens plus du nom, j'étais en train de le googler là. En Chine, apparemment, il y a l'explosion des films de 2 à 3 minutes produits par l'IA. Une explosion. Et apparemment, en chiffre d'affaires, c'est mini-contenu, on génère plus de chiffre d'affaires
d'accord.
que tout Hollywood l'année dernière.
Okay.
Oui, c'est pour ça que les plus avancés sur les digital human, c'est les Chinois, et ils font le e-commerce et les petits films.
Ouais, le mot de la fin pour Didier, le gueulard de ce soir. Non mais vas-y Didier, je t'en prie.
Juste pour
regarde,
dire
elle a l'air sympa, elle mange des cookies.
Oui mais moi, encore une fois, ça ne me dérange Norwood. Pas. C'est une question de goût, de choix, etc. Qu'on regarde ce personnage en sachant pertinemment que c'est une IA et en sachant pertinemment que derrière c'est un ordinateur qui a généré les images. Pourquoi pas? Je te dis encore une fois, il y a eu les dinosaures sur Jurassic Park, ça me gêne pas. Maintenant, c'est pas ça que j'irai voir forcément. Moi, j'aime bien la gueule burinée du héros, les larmes qui sont réelles.
L'IA pourra le faire moins bien.
Et tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, je suis désolé. Tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, je suis capable. De détecter tout de suite.
Ouais, mais Didier, ça a 3-4 ans, ce truc-là. T'imagines dans 10 ans ce que ça donnera? Ouais, c'est ça le truc.
Ça remplacera jamais Les Inconnus ou un bon film. Non, mais les Bronzés.
Je te présenterai Aurélien, là, qui travaille chez France Travail, qui est un passionné de cinéma. Je peux dire qu'il te montre des choses de 3-4 minutes. Tu es incapable de dire si c'est de l'IA. Incapable.
Je te montrerai aussi si tu veux.
Mais c'est incapable. C'est incroyable.
Mais après, vous allez m'énerver encore plus.
Mais après, dans ses prompts, il va chercher la marque de caméra, machin. Tel grain, il dit tiens là je veux un grain façon pellicule 70 mm.
Oui,
là je veux
qu'il... c'est le minimum quand même si tu veux faire du cinéma.
Mais il te prompte tout ça et tu retrouves ça à l'écran et je te jure t'es incapable de savoir si ça a été fait.
Un jour on y aura plus personne dans les experts.
Non, c'est ça.
François, Fred,
c'est ça.
Exactement. On est plus là déjà, tu sais,
tu montreras le curseur de gueulard de Didier au maximum. Augustin, on mettra 8/10, tu vois.
On est chacun des ingénieurs avec des personnalités différentes.
La théorie qu'on soit dans un monde simulé.
C'est vrai.
Mais après, l'interaction comme ça entre certaines IA et cette richesse qu'on a humaine de s'échanger avec des émotions et tout ça, est-ce que ça arrivera un jour? Ouais, ça arrivera.
Non, il y a un autre drame duquel il faut parler, c'est comment cette jeune...
Comédienne
virtuelle a été entraînée. Et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que c'est clairement en pillant le travail d'acteurs qui, eux, font un vrai travail de composition, de création, etc.
Bon, ouais. Après, il y a de jeunes comédiennes qui se ressemblent toutes entre elles.
Ouais, mais si tu veux de la qualité, il faut que ce soit des gens d'expérience. Et là, c'est clairement tous les films. On a nourri l'IA, l'apprentissage avec tous les films possibles, imaginables, de grandes vedettes hollywoodiennes, c'est clair.
Allez, il est 20h30, on marque une petite pause et on enchaîne avec encore une demi-heure de débrief de l'ActuTech. Vous restez avec nous, bien sûr, à tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà le retour du débrief de l'ActuTech en ce mercredi soir. Un grand merci d'être là. Je vous rappelle bien sûr qu'on est en direct chaque soir de 19h30 à 21h à la radio, à la télé, et qu'ensuite les replays, les podcasts sont disponibles. Une demi-heure de débrief supplémentaire puisque nous sommes à l'avant-dernière émission avant le break estival et on se retrouvera le 24 août prochain. On aura l'occasion d'en reparler demain. Et pour cette dernière demi-heure, toujours Thomas Serval, Didier Sens, Augustin Seyer et Frédéric Simotel. Messieurs, nous allons jouer pour cette dernière demi-heure au jeu des coups de cœur et des coups de gueule. Voilà, on va faire ça ce soir, on fera ça aussi demain. Pour la dernière demi-heure, vous allez un petit peu nous raconter vos coups de cœur et coups de gueule chacun. Alors, vous êtes quatre, on a une demi-heure, il va falloir être quand même assez rapide. Didier, on va commencer par ton coup de cœur.
Mon coup de cœur. Il a déjà pris son coup de gueule.
Non, mais ton coup de gueule, ça sera tout à l'heure.
D'accord.
Mais là, donc, tu voulais nous parler du sursaut européen et français pour la souveraineté numérique.
Oui, parce que il a fallu malheureusement qu'il y ait un contexte géopolitique assez tendu avec nos amis américains pour qu'on se rende compte que on n'est rien. On nous supprime l'IA, il n'y a plus rien. On nous supprime le cloud, il n'y a plus rien. On a vu ce commissaire...
On supprime les puces, il n'y a plus rien.
Les puces, on a vu ce commissaire européen qui avait été privé de tous ses contacts avec des entreprises américaines, y compris ses comptes bancaires, son assurance, sa mutuelle, etc. Enfin bref. Donc, il a fallu ça, et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu s'en rendre compte avant, pour que les autorités françaises et européennes décident de trouver de nouvelles manières de nous libérer. Alors qu'est-ce que ça a donné? Alors pour l'instant c'est encore en projet, mais ce qui est intéressant c'est ce qui a été décidé notamment par le couple franco-allemand, notamment au sommet de Berlin, et d'accélérer les engagements dans la technologie et notamment le cloud souverain, les entreprises locales pour remplir des missions numériques, etc. Alors ça porte plus ou moins ses fruits. Nous, ce qu'on aimerait, je pense que tous les débriefeurs sont d'accord avec moi, c'est de voir se lever enfin une industrie tech à la hauteur des enjeux et de ce que représente la communauté européenne. Pour l'instant, on a des petites tâches comme ça de pépites locales. On a parlé de Mistral tout à l'heure, on peut parler d'OVH, on peut parler de Scaleway, de gens comme ça, qui méritent peut-être d'être un peu plus mise en valeur. Et pour discuter avec des chefs d'entreprise, moi je sais que ce qui leur manque, c'est clairement des commandes publiques, des encouragements financiers, etc., qui leur permettraient de passer un palier et d'avoir une offre qui vraiment serait capable de concurrencer celle de nos amis américains et de nos concurrents chinois.
Augustin, ton coup de cœur? Je crois que tu voulais nous parler de Station F.
Station F. En fait, Station F est Paris en tant que, on va dire, capitale européenne de l'IA. On aime critiquer la France avec ses charges sociales extrêmement lourdes, enfin son coût du travail extrêmement lourd. Et malgré ça, en fait, on arrive à s'imposer comme une place indispensable de l'IA, en tout cas dans le monde occidental. Donc on arrive à recruter des gens extrêmement bien payés en France. Et Station F fait partie de ces lieux où il y a de plus en plus de start-up.
Alors, malgré tout, ce que tu disais, c'est qu'il y a le boulet des charges et des taxes, c'est ça?
Ouais, c'est quand. Bah non, oui, c'est que pour même salaire en France. Enfin, oui, c'est juste qu'en fait, en France, tu sais, tu récupères 50% de ton super brut. Et qu'en fait, est-ce que tu arrives à payer. Enfin, est-ce que tu arrives à attirer les meilleurs en France malgré ce coût-là? Et la réponse est oui. Je lisais il y a deux ou trois jours un tweet d'une start-up. C'est Runway, je crois, Runway AI, ouais, qui ouvre deux bureaux en Europe. Généralement, quand ils ouvrent un bureau en Europe, ces gens-là, c'est à Londres. Le coût du travail.
Londres-Berlin.
Le coût du travail à Londres, il n'est que dalle. À Berlin, il est peut-être un peu plus élevé. Et là, ils ont pris Londres et Paris. Et en fait, je pense que Paris, en effet, fait la différence sur l'IA. Et cette concentration, en fait, va nous renforcer.
Il y a aussi un vivier d'ingénieurs qu'on ne trouve pas forcément dans les autres pays européens.
Aussi, non, bien sûr. La base, c'est les ingénieurs français ou formés en France. Ouais. Et en fait, ça se renforce avec, moi je rencontre de plus en plus d'ingénieurs IA de l'étranger qui viennent en France. Ensuite, la vraie difficulté qu'on a, c'est que mine de rien, c'est des salaires à 100, 200, 300, 400, 500, etc. Et il y a un moment où ils viennent tellement cher, les méta, machin, ils les envoient aux États-Unis en fait.
Et oui, c'est ça.
Et j'en vois malheureusement quelques-uns où tu te dis, mais c'est incroyable d'avoir ce gars-là en France. Il doit payer une tonne d'impôts, donc tant mieux. Il est à Paris, c'est cool, ça permet d'attirer des gens autour de lui. Il y a un moment méta où il fait calcul, il fait bon, on veut le payer des salaires mirobolants à la 500, mais je suis désolé, on se bat sur des. Enfin, la compétition aux États-Unis, c'est des salaires à 1 million, 2 millions, 3 millions. Mais tu te bases sur un salaire 500, en France, ça te coûte 1 million. Aux États-Unis, le salaire 500, ça te coûte, je sais pas, ça te coûte 550, quoi. Enfin, j'exagère, ouais, je tire le trait parce qu'en fait.
Oui, enfin, t'as pas de sécu, t'as pas. Enfin, bref,
on peut. Ouais, enfin, la sécu là-bas, c'est pas. Bon, on va pas.
Souvent, les entreprises payent des assurances santé.
Oui, mais c'est pas très. C'est 600 balles par personne par mois. Hein.
Ouais, c'est pas énorme.
Voilà, donc sur des salaires 500, t'es vite gagnant aux États-Unis. En effet, en France, sur les plus petits salaires, t'es gagnant en France.
C'est assuré qu'ils vont lancer un nouveau programme spécial IA. Hein. Ils vont lancer là la rentrée. un gros de sélection, de recrutement.
Non, mais t'as Paris, et en fait, la vraie capitale des startups à Paris, c'est Station F. Ils ont fait un travail remarquable, en fait.
C'est l'un des trucs qu'on retiendra de toute façon du mandat d'Emmanuel Macron. Hein.
Bien sûr.
Et puis une chose positive, c'est sera bien celle-ci.
Et puis c'est la Station F, c'est Xavier Niel aussi.
Je suis mauvais langue sur le coût du travail, parce que, mais bon, ça devrait pas être que pour les ingénieurs. Les ingénieurs, ils bénéficient beaucoup du CIR qui permet de réduire le coût du travail. Mais même avec du CIR, t'es plus cher qu'un Allemand. Moi, j'aimerais bien que même avec du CIR, t'es compétitif avec un Anglais et qu'ils arrêtent d'ouvrir des bureaux à Londres, qu'ils les ouvrent uniquement à Paris.
Thomas, ton point de vue, parce que toi, t'es vraiment dans le truc, hein, tu es entrepreneur, tous ces sujets-là, tu les vis au quotidien. Donc, Station F déjà, ok?
Alors, Station F, moi j'adore comme pour y aller, et inversement, en tant qu'entrepreneur, je me méfie un peu de mettre ma boîte là-bas, pour une raison assez simple, c'est que dans la vie d'une start-up, il y a des hauts et des bas, et si tous tes concurrents sont à côté de toi, le jour où il y a un bas, ils te le piquent. Donc quelque part, on oublie toujours qu'une des choses qui fait la force de la France, c'est la fidélité des ingénieurs. On construit pas une IA en trois semaines, on construit une IA avec des années de R&D. Et donc, pour moi, sur ce sujet-là, je trouve que ces lieux sont importants parce qu'ils sont iconiques et qu'ils réunissent la masse critique, qu'ils font venir les gens. Après, en tant qu'entrepreneur, moi, j'aime bien garder mes ingénieurs.
C'est-à-dire que tu as peur que quelqu'un, le voisin de Station F, te pique tes ingénieurs?
Mais bien sûr,
c'est ça,
parce que je fais pareil. Je me promène chez Station F, je vois un mec qui s'ennuie à la machine.
Ouais, mais si tu es sûr de ton produit, si tu payes bien tes
mais
ingénieurs.
Tous les jours, tu vois, par exemple, on avait un bel appel d'offres pour Enedis. On l'a perdu, alors que tu parlais de trucs, de la commande publique. On a dû probablement le perdre au bénéfice d'une grosse boîte. Parce que, alors qu'on avait tout fait le travail de R&D. On est dégoûté. Voilà. Mon équipe technique aujourd'hui, alors que ça fait 2 ans qu'on travaille avec ce compte et tout, elle est dégoûtée. Voilà. Si demain elle croise un entrepreneur de Hardware AI qui vient de faire sa levée de 20 millions, eh ben,
ouais, mais est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, si elle a envie de partir, elle partira quoi qu'il arrive, qu'elle soit Station F ou ailleurs, non?
Non, mais la raison, tu peux pas créer de culture d'entreprise. Station F, c'est génial pour lancer des boîtes.
Oui, après,
c'est
très compliqué
de créer cette culture d'entreprise parce qu'en fait, c'est un énorme open space. Mm. Mais bon, c'est un peu. Station F, le problème, c'est que si les boîtes commencent à se développer en Station F, il n'y a plus de place pour le.
Mais non, mais c'est pour ça que c'est très utile pour commencer, c'est très utile pour rencontrer. Oui. C'est exactement ça. Le modèle, et inversement, il faut créer des entreprises autour, mais pas dedans.
Le modèle est fait comme ça. Hein.
Non, mais
le but, c'est pas de rester à Station.
Non, c'est vraiment.
Mais c'est pour ça que je voulais juste nuancer par rapport à. C'est le lieu de la naissance ou la favorisation de la naissance pour atteindre la taille critique sur les technologies.
Et il y a. Bien qu'on ait ça en France.
À San Francisco, il n'y a pas ça. Hein.
Non, il n'y a pas ça.
Ça n'existe pas.
Ah non, ça n'existe pas. Donc, on parle de choses différentes, mais je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai que quand tu arrives à Station F,
beaucoup
essaient
de copier. Hein. À Londres, ils essaient de copier, tu vois, mais ils n'arrivent pas à trouver ce.
Et c'était une magnifique opération immobilière. Il faut voir que Xavier Niel est un génie.
Station F, hein,
encore une fois, c'est la Halle Fresinet, c'est ça?
Oui, la Halle Fresinet.
Et même tout autour.
C'est une ancienne gare magnifique.
Il a fait un travail.
Et
là, il faut quand même dire que pour secouer l'écosystème, Xavier Niel a fait un travail les pouvoirs publics
bien sûr
ont soutenu, mais dont ils n'ont pas été à l'initiative.
Non,
et ça, je pense que c'est une des choses de la France qui réussit, c'est qu'on voit aussi qu'on est dans l'art du give back, et que maintenant il y a des générations d'entrepreneurs qui ont réussi et qui animent ces projets, comme la French Tech a été fondée par des entrepreneurs initialement. Et c'est ça qui fait quand même qu'on est encore sur le jeu mondial, c'est que il faut pas attendre de l'État. Exactement.
Et puis, bon, c'est l'un des projets importants de Xavier Niel, mais il y en a tellement d'autres. L'école 42, Hectare, notamment, pour l'agriculture et la tech. Enfin, et j'en passe,
Alfred,
évidemment. Et tous les investissements qu'il fait dans l'immobilier start-up. C'est incroyable. Ok, alors, le coup de cœur maintenant de Frédéric Simotel. Tu voulais nous parler de la RAM.
Eh bien, moi, c'est ça, c'est mon coup de cœur,
T'es devenu amoureux de la RAM.
Ouais, la reconnaissance.
Il essaie de charmer la RAM pour la payer moins cher.
C'est la reconnaissance tardive de la RAM. Voilà, on en a parlé. Alors, quand on a tous, enfin, pour ceux qui en démarrent un peu dans ce métier d'ingénieur, on était tous à chercher le processeur, c'était bien, mais chercher de la RAM, c'était je rappelle, voilà, il y a prescription aujourd'hui. Moi, la nuit, là où je bossais, on allait piquer on démontait les PC des assistantes, tout ça, on leur piquait de la RAM pour avoir davantage de RAM pour développer. Et je trouve qu'aujourd'hui, donc, elle a toujours été
ça
là.
Ça, c'est pas beau, hein, Fred, hein, franchement.
Discrète et pourtant essentielle. Et je trouve que.
Ta carrière risque de s'arrêter d'un coup, d'un seul.
Là. À travers. Ah ben, s'il y a des assistantes qui, à 30 ans, se disent, ah ben, je comprends pas, mon PC IRAM.
IRAM.
C'est parce que derrière, nous, on avait des trucs.
C'est Frédéric Simotel, madame.
9 gigas de RAM, enfin, on avait tout
même moins, frappé. 512K.
Mais bref. Et mais c'était un clin d'œil parce que cette RAM dont on parlait comme ça, voilà, c'était une ligne dans des descriptions techniques. En quelques mois, c'est devenu un enjeu stratégique.
Bien sûr.
C'est devenu un enjeu. On connaît qui fait des RAM. SK Hynix, Samsung, Micron. On nous aurait demandé ça. Alors, si, peut-être nous, parce qu'on suit un peu le secteur, mais tu demandes à n'importe qui aujourd'hui dans cet univers, ils connaissent ces acteurs. Et je trouve que, quand même, c'est assez drôle de voir cette technologie.
Matin.
Et alors, derrière, je pense que cette technologie, elle remet aussi un peu au goût du jour les ingénieurs techniques. C'est-à-dire les ingénieurs qui travaillent sur le hardware, sur les OS, sur les couches, toutes les couches basses de tout ça. Allez, ça remet un peu de...
Aujourd'hui, c'est l'enfer sur Terre pour les entrepreneurs.
Eh ben, il est temps d'optimiser les codes. Voilà. Parce que c'est ça le problème, il faut que la Commission européenne réglemente.
Mon coup de cœur,
c'est... On plafonne le prix de la RAM.
On plafonne, exactement.
Mon coup de cœur, c'était ça. C'est que tout le monde aujourd'hui, quand il achète son PC, son machin, qu'il voit la petite ligne, tant de gigas de RAM et tout ça, il a une petite pensée en se disant, tiens, je pensais que c'était un truc un peu anodin, mais que si tu l'enlèves, ton truc marche pas. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas...
Je veux quand même te faire un petit témoignage de ton truc que tu adores. Aujourd'hui, tu veux acheter de la RAM. Alors, la RAM, elle est partout. Et tu veux acheter de la RAM. Les gens, aujourd'hui, sont en telle pénurie qu'ils te disent, si tu me payes aujourd'hui, je te donne le droit d'en acheter au prix que je dirais demain.
On avait parlé d'autres
choses. Octave Clava, c'est le premier à m'avoir l'été, mais il y a un an, il me disait, oui, et aujourd'hui, tu vois, ah ben là, aujourd'hui, je suis en train de stocker de la RAM. En train de me dire, mais qu'est-ce qui lui prend,
c'est
quoi.
Mieux que le Bitcoin.
Et en fait, on a vite compris, il avait anticipé tout ça et il a essayé de racheter un maximum. Il m'a dit, tu vas voir, il va y avoir une pénurie qui va arriver.
On l'a vu arriver, ça a eu des signaux faibles.
Oui, parce qu'en fait, c'est arrivé parce que les acteurs ont organisé une pénurie depuis 3 ans parce qu'ils se faisaient trop tordre le bras et que la concurrence était mauvaise.
Mais notamment Apple, je crois.
C'est Apple qui avait fait ça. Résultat des courses, ce qu'ils n'avaient pas vu arriver, c'est l'explosion des demandes en GPU. Ouais. Ce qui fait qu'ils avaient réduit la production et après, ils pouvaient le vendre 4 fois plus cher avec le même produit. Donc en fait, on avait anticipé de faire stagner le prix de la RAM et la demande a explosé, donc ça fait exploser. Mmh. Ça, on ne l'avait pas anticipé.
Ok. Donc ça, c'était le coup de cœur de Frédéric. Ton coup de cœur, Thomas, tiens. Tu vas nous parler de modèles open source français, je crois.
Alors, mon coup de cœur, c'est les moteurs de codage. C'est-à-dire les cloud code, etc. Il faut voir que depuis 25 ans, pour ceux qui ont été comme moi passionnés de code, à un moment donné, on s'est retrouvé face à un très bon développeur qui t'a quand même expliqué que tu n'étais pas aussi bon que tu pensais que tu l'étais quand tu étais adolescent, que tu avais vu qui t'avait fait donner le mythe du développeur génial avec son modem et tout. Et donc moi, ça fait 25 ans que maintenant, j'embauche des ingénieurs bien meilleurs que moi, de plein de nationalités, que je paye cher. En France. Et il y avait une immense frustration parce que j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire dans ma tête, mais il fallait que je transcrive bien pour qu'il fasse ce que j'avais envie. Puis après, il y avait des problèmes techniques et ils pouvaient pas être réglés. Puis même, j'avais une idée d'un produit, les gens voulaient pas le faire. Donc même si je les paye, en fait, il y avait quand même une sorte de devoir.
Ouais, tu n'arrivais pas à les convaincre de faire
pas
ce
toujours,
que tu leur demandais de faire.
Il faut voir que, par exemple, quand j'étais chez Google, si tu veux, c'est les développeurs qui décidaient ce qu'ils faisaient. Hein. Ils travaillaient sur ce qui les intéressait. Et ton projet marchait si les développeurs te suivaient.
C'est incroyable.
C'est le problème chez Apple, hein, aujourd'hui.
Non, mais et donc, quand tu redécouvres Cloud Code, Codex, et même mon produit BeConnect qu'on a fait pour faire...
Et là, tu reprends le pouvoir, en fait.
Mais c'est mieux que ça. C'est-à-dire que en un mois, j'ai fait une app que j'ai pu montrer à Apple. Ils m'ont dit, on n'a jamais bien. Parce que c'est pas parce que je sais pas coder. Par contre, je sais ce que je veux. Et en fait, on se rend compte que effectivement, quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu dois tester et que tu as 20 ans d'expérience, ces produits, c'est incroyable.
Et là, l'IA est parfaite pour ça.
Mais c'est mieux que bien. C'est-à-dire, quelque part, tu te retrouves dans un nouveau paradis. Qui est dangereux parce qu'il est addictif et donc quelque part il faut faire attention pour que tu gardes une vie sociale. T'as un truc qui te dit que t'es un génie parce qu'en fait les IA en plus comme Claude,
oui, est-ce que t'as raison dans le sens du poids.
Donc tu veux plutôt que le mec qui râlait en face, tu veux, ça te rend quand même plus heureux de faire 2 heures de développeur en plus, etc. Tu obtiens en quelques heures un produit que tu peux tester sur ton iPhone. Alors qu'avant, si tu veux, moi il me fallait ce que j'ai fait là en un mois, un produit qu'on va lancer dans un mois, ça me prenait 2 ans et 2 millions.
Si et super documenté en plus quand il te rend le code.
Et je veux faire un truc de mieux parce que j'ai entendu un nouveau. Hop,
Alors, mais c'est quoi son truc? Tu vas nous sortir quoi dans un mois?
En avant-première à la rentrée. Et donc,
non, mais juste une petite indice. Un tout petit indice.
Des lunettes connectées. Voilà.
Mais en tout cas, mon coup de cœur, c'est ce truc-là. Et nous, on en a fait un produit avec BeConnect qui permet de. T'as une idée, tu fabriques l'objet. Donc en fait, il n'y a pas que pour le code. Mais ces outils rechangent complètement comment tu réfléchis à construire un produit, redonnent du pouvoir à ceux qui savent ce qu'ils veulent. Redonne du pouvoir à ceux qui savent bien les exprimer, redonne finalement du pouvoir finalement au consommateur qui devient acteur et qui peut tout de suite voir son feedback intégré, et effectivement, rend les développeurs experts essentiels, parce qu'à un moment donné, tu parlais d'optimisation du code, ce que tu produis marche, mais marche pas très bien. Donc, quelque part, il faut après diviser par 100 le nombre de lignes de code pour le rendre efficace et moins cher, mais ça te donne un pouvoir de créateur. C'est vraiment la même expérience qu'il y a pu avoir avec les gens qui faisaient de l'impression 3D pour fabriquer des objets. Il faut savoir que, je sais pas si vous vous souvenez cette époque, mais massivement.
Mais est-ce que demain, le risque, c'est finalement que on te squeeze aussi à toi? C'est-à-dire que demain, moi,
c'est pour ça qu'il y a
J'ai envie de créer une appli.
C'est pour ça que les SaaS descendent. C'est aujourd'hui pour ça que.
Est-ce que finalement, on va pas tous être créateurs d'applications demain?
Oui, mais après, attention, ça dépend ce que tu fais comme application.
Ou logiciel.
T'as quand même toute la partie gouvernance de données, t'as tous les liens avec les API et tout
pour
ça.
Les entreprises. C'est pour ça qu'il faut faire très attention.
En entreprise. Pour toi tout seul, oui. Mais en entreprise, t'as quand même toute la partie gouvernance de données, t'as toute la partie.
Ah non, je te parle pas d'entreprise, je te parle pour nous particuliers, tu vois.
Pour toi, oui.
Ah, mais toi, tu vas développer tes propres agents. Et le pire, c'est que. Et nous, on voit avec les dirigeants d'entreprise, on accompagne beaucoup des dirigeants d'entreprise pour faire venir de l'IA. La seule manière d'apprendre vraiment, c'est d'essayer, et tu vas te rendre compte que tout ce que tu pensais pas capable de faire, tu le fais. Et c'est un effet incroyable. C'est d'ailleurs le succès de tous ces trucs-là. C'est incroyable.
Et on en est qu'au tout début. Exactement. Tout ça.
C'est donc
ça
tu feras des films, tu feras tout ce que tu pouvais pas faire, parce qu'il fallait plein de gens. Et si on veut vraiment rentrer au cœur de pourquoi il y a cette dynamique autour de l'IA, c'est l'empowerment que ça donne aux gens qui ont envie de faire des choses, qui est un truc très entrepreneurial, et c'est absolument magique.
Et qu'est-ce qu'ils deviennent, tes développeurs?
Eh ben, il y a deux catégories. Il y a ceux qui embrasse ce truc-là et parce que là on parle donc tu es en train d'expliquer qu'il y a une différence entre faire un produit pour un particulier et faire un produit industriel. Oui. Mes développeurs, ils sont concentrés sur fabriquer des produits industriels, c'est-à-dire la sécurité, l'optimisation du code, la scalabilité, et il faut pas que de mon témoignage, de mon coup de cœur, on voit l'idée qui est fausse, qui donne l'impression qu'on peut refaire un logiciel de dimension entreprise avec juste un ingénieur fou. Par contre, ce pourquoi je mets mes ingénieurs, c'est tout ce qui va passer de l'idée à l'industrialisation. Et ça, ça va être le nouveau métier des développeurs professionnels.
Allez, coup de cœur. Maintenant, les coups de gueule de chacun. Et alors, il y a quand même un coup de gueule collégial, sauf Thomas, Didier, Augustin et Fred, et on va commencer par toi, Didier. Tu voulais parler justement de tout ce qui touche à la cybersécurité. Et cette première partie de 2026 en termes de sécurité, c'est une catastrophe.
Non, mais c'est un cauchemar. Je veux dire, entre les banques, les opérateurs téléphoniques, les hôpitaux, même les institutions privées qui se font piquer les données, c'est un vrai cauchemar. Donc, il y a un vrai problème.
Ça, c'est pas nouveau. Enfin, ça fait des années qu'on évoque ça dans Tech & Co avec Fred.
Eh ben, justement, il est peut-être temps maintenant de dire, vous devez prendre, vous, entreprise à qui on confie nos données, des engagements, pour éviter cette espèce de tendance à, on sait même pas si c'est de l'incompétence, de l'indifférence, de l'insouciance. On sait pas. Mais en tout cas, il n'y a rien qui justifie qu'une entreprise à qui on confie nos données ne prenne pas toutes les mesures nécessaires pour les protéger. C'est comme si je donnais mon argent à la banque et que la banque dit non, il n'y a plus rien dans votre coffre puisqu'on a laissé les fenêtres ouvertes et les gens peuvent rentrer comme... Non, on ne peut plus faire ça maintenant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Non seulement nos données sont donc exposées, revendues, utilisé à notre détriment, on le voit avec toutes les campagnes de phishing qu'on a, Monsieur Sens, aujourd'hui votre crédit machin, ou Monsieur Sens, votre abonnement Netflix, cliquez ici, etc. Tout est personnalisé et fait, ou voici votre IBAN, cliquez ici, etc. Bon. Il y a des gens qui se font avoir. Et ça, c'est pas normal, parce que, encore une fois, il y a des entreprises à qui on fait confiance. On est obligé de leur donner nos données pour s'inscrire à leur service. En revanche, et en retour, on s'attend évidemment à ce que ces données soient protégées. Et maintenant, je pense que ces entreprises ne font pas leur boulot et qu'il faut, là aussi, légiférer.
Didier, j'ai une idée.
Oui.
Et je pense que ça passe pas par la législation. Ma mère, moi, c'est pourquoi j'ai dit que c'était un coup de gueule. Ma mère m'appelle, me dit, ah, j'ai Dashlane qui me dit que mes données ont été compromises. Et je regarde, elle a en effet son adresse, son numéro de téléphone, son prénom et nom. Et je regarde, je vois colisprivé.com. Apparemment, qui a perdu en 3 millions à 11 millions de données comme ça. Et je regarde l'email, j'étais, mais l'email, il n'y a pas un, on est désolé. C'est pas de notre faute, en fait, l'email. Et je pense que c'est en effet, c'est de leur faute. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un manque, ils ne disent pas, c'est de notre faute, on aurait dû. C'est sûr que l'IA accélère la cybersécurité, les attaques de cybersécurité, mais c'est de leur faute.
Et les rend
de
plus en plus réalistes en plus, c'est ça le souci.
Et tu sais ce que je suis allé voir
des mails,
L'email, j'étais atterré. Pas un désolé, pas un on vous dédouane, on vous
Ah, mais le courrier de Bouygues, c'était pareil. Voilà. C'est des données en fuitée, ne vous inquiétez pas.
Là, il n'y avait même pas. Oui. Et tu sais, je regarde, j'ai dit, mais il n'y a pas une attaque, il n'y a pas des... Et alors, je ne pense pas que ça passe à la législation, je pense que ça passe par les gens qui se sont fait hacker leurs données, qui se mettent ensemble, qui attaquent et qui récupèrent de l'argent. C'est, y a, en fait,
à l'américaine. Ouais,
à l'américaine, mais si,
encore une fois,
rien.
Tu fais bosser des gens qui n'y sont pour rien, tu vois, ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie.
Mais oui, mais comment tu veux leur faire réagir? Tu crois vraiment qu'une loi va leur dire, bon, maman, il faut que vous équipiez? Oui, mais il y a déjà des lois, en fait. Moi, je suis un fonds, une société de gestion, je suis soumis à une législation qui s'appelle DORA. On s'est mis sur DORA, mais en fait, DORA, c'est déjà obsolète. Ouais. Tu vois, ça nous encadre tout notre... comment on se login, comment on se connecte, etc. Mais aujourd'hui, les nouvelles attaques, c'est même pas ça. Les attaques, c'est ça va passer par des pipelines hackés. Enfin, t'as beau légiférer, l'IA rend aujourd'hui tout ce qui est législation obsolète. Donc moi, je pense que ça passe par, eh ben, tu sais quoi, je me fais hacker... Comme la Commission européenne qui attaque Apple, je prends ton chiffre d'affaires si tu te fais hacker. En vrai, je suis désolé, tu perds. Colis privé, excuse-moi, je vais via. Je veux pas, j'ai rien contre colis privé, mais Bouygues, colis privé, même l'État avec la NTS, il n'y a pas on est désolé. T'as des classes actions.
Surtout la NTS, c'était pas très compliqué. Hein.
Où tu te dis, ouais. Tu te dis, à chaque fois que je perds une info, c'est 200, 300 000 euros, je te promets qu'ils vont investir dans la cybersécurité.
Ouais.
Et donc, mon coup de gueule, c'est le même que le tien. Mais qu'en effet, il faut qu'elle se bouge. Et en fait, il n'y a que le financier qui va bouger. Pas des GAFAM, on est d'accord, parce que 500 millions, c'est un jour ou deux jours de profit. Mais des boîtes en France, si tu commences à leur dire, la CNIL commence à dire, OK, on attaque, c'est 10% du chiffre d'affaires, elles se bougent tous.
Mmh. Et après, la difficulté pour connaître bien les entreprises, c'est toute leur histoire de gouvernance des données. C'est des données, elles en ont tous les sens. Et pour connaître bien ce métier des CISO, des RSSI, ils ont un gros souci là-dessus.
Qu'ils embauchent un spécialiste, enfin.
Mais ils ont des spécialistes.
Oh, vous comprenez, c'est compliqué. On a eu le Covid, et puis après, on n'a pas eu le temps.
Ils n'assument pas trop leurs responsabilités.
Oui, ils disent même pas. Ils n'assument jamais.
Moi, je peux dire, je vais vous en présenter quelques-uns. Ouais. Vous allez voir sous quel stress ils sont en permanence.
Ah, mais c'est sûr que l'IA aujourd'hui doit les mettre sous l'enfer.
T'as un gars comme Patrick Pouyanné, tu lui demandes c'est quoi votre priorité aujourd'hui. Il te dit pas c'est trouver du pétrole, c'est m'en sortir avec
la cyber. Machin.
Il dit c'est la cyber.
Non, gagner de l'argent d'abord.
Non. Je peux dire qu'aujourd'hui c'est
mes actionnaires.
Non, c'est.
Les deux sont intimement liés, cela dit.
Et alors, moi, mon coup de gueule qui vient rajouter un peu sur tout ça, c'est je m'en suis rendu compte avec.
Rapide Fred, parce que j'aimerais donner la parole à Thomas aussi.
De Mythos et Fable 5, c'est tous ceux qui ont développé, et j'en fais partie, pendant des années en langage C. Parce que toutes les conneries qu'on voit, toutes les failles qu'on a aujourd'hui,
c'est
du C. Pourquoi ? Parce que les développeurs, on a laissé libre cours à leur créativité en langage C, mais justement, on leur a laissé, vous allez gérer finement la mémoire, mais en fait, ils l'ont géré finement, mais sans protection automatique. Donc aujourd'hui, t'as plein de les pointeurs, ça va n'importe où, machin, et tous les programmes en C, eh bien, ils laissent tous des choses parce qu'on n'a pas été justement dans le développé par Design by
Security
by Design. Et voilà, donc c'était mon coup de gueule de dire, quand vous programmez en C, maintenant faites attention à ça, parce que bon, c'est pour ça que les autres programmes en Rust et tout ça, on a changé de logiciel depuis.
Merci Fred. Le coup de gueule de Thomas. On va parler de la langue de l'IA, et notamment l'IA version française.
Voilà, donc en fait, on rappelle à chaque fois qu'on est un grand pays de l'IA, qu'on a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, pour être en plein dedans, mais alors vraiment profondément dedans, il y a deux langues qui sont extrêmement bonnes pour faire de l'IA, le chinois et l'anglais. Et il y a un décrochage absolu et total de la capacité à s'exprimer dans... Alors, je ne te parle même pas des langues rares qui sont en train de devenir des citoyens de troisième zone.
Et en Afrique, qui n'existe même pas. Même.
Donc, quelque part, aujourd'hui, on a Mistral, qui, et là, je trouve ça scandaleux, un modèle très bien, qui s'appelle VoxTrail, mais en fait, on peut pas l'intégrer dans les produits, il y a une licence commerciale. Donc, en fait, On avait dit, on va faire réexister la France par l'open source, par la mise à disposition de trucs. L'État dépense des milliards dans un certain nombre de choses, et le français décroche, mais dans tous les benchmarks, en génération, en capacité à s'exprimer, en culture, enfin, bref, grosso modo, on a, pour de raisons évidentes, c'est les Chinois qui ont investi plus dans leurs IA, les Américains, et on a complètement arrêté de défendre le français dans toutes ces zones, l'expression orale, le français parlé, aujourd'hui, trouve des voix open source en français de qualité. T'y arrives pas. T'as du québécois, tu vois. Et j'ai vraiment fait le travail. Donc, c'est un témoignage. Et je suis bouleversé de ça parce que c'est contraire à tout ce que je pensais qui avait été fait. Et donc là, je sais même pas où on est. D'un côté, on a l'INA, on a plein d'assets. Il faut gagner cette bataille de la culture et du français. Et il faut absolument.
Mais là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entraîner ces IA à la langue française, c'est ça?
Il faut que les IA soient entraînées et qu'il y ait des bons entraînements avec des poids ouverts basés sur le français. Aujourd'hui, il y a des bonnes IA avec des poids fermés sur le français. Donc, il faut payer pour parler français. C'est plus cher, si tu veux, d'utiliser une bonne IA en français qu'une bonne IA en anglais ou en chinois. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre.
Mais est-ce que toutes les langues européennes, par exemple l'italien, l'allemand, c'est pire encore?
Non, en fait, plus la langue est, donc allemand, français, etc., c'est les langues de deuxième zone, mais il y a quand même du contenu. Et plus la langue est rare, plus c'est la cata.
Il y a un très bon article dans The Conversation ce matin là-dessus, justement, où il parle notamment du problème de l'entraînement, de la qualité des ce que tu disais exactement, hein, des cursus, des corpus d'entraînement, et notamment le fait que, en génération de texte, la langue s'appauvrissait considérablement parce que le schéma statistique de l'IA fait qu'on utilise les mots les plus répandus et que donc ça supprime tout ce qui est nuance, choix des mots, tout ce qui fait la richesse en fait de la langue.
Et aujourd'hui, pour illustrer ce que tu viens de dire, je suis obligé de le meilleur en français en text-to-speech, c'est Quen, Alibaba, qui a fait 100 langues. Je suis obligé de la dessiniser en enlevant les caractères chinois qui traînent encore dans le code et j'ai des expressions qui doivent être correctes en chinois.
Mais qui ne veulent rien dire en France.
Mais qui ne veulent rien dire en France. Et donc, il y a Qtai qui a essayé de faire des choses, mais je n'ai rien de concret open source, open weight. Il y a Mistral qui devrait être à fond dans ça.
Et bien sûr.
Et qui n'y est pas.
Pourtant, ils ont communiqué là-dessus, Fred, d'ailleurs.
Ils ont communiqué là-dessus, mais surtout, je rappelle que...
Parce que c'est eux qui francisent, en fait, Amazon Alexa Plus. Je ne sais pas si vous avez suivi.
Ils ont des trucs, mais ils ont des modèles.
Ils ont
des modèles privés.
C'est des modèles où maintenant, en fait, les gens ne comprennent pas la différence entre les modèles, et c'est plus open source.
Et Emmanuel Macron l'avait mis en avant à l'époque, quand il avait fait son discours au forum, il avait parlé du biais des langues, c'était un des points forts.
On arrête là, merci beaucoup à tous les quatre, merci Frédéric Simotel, Augustin Seyer, Thomas Serval, Didier Sens, pour cette heure et demie de débrief qui a été
intense,
passionnante, intense, un peu musclée, mais on aime bien. Merci beaucoup à tous les quatre, belle été, si on ne vous revoit pas d'ici là, et on sera là demain pour la dernière de la saison, Fred. Et oui, Calco, la quotidienne.
Avec voilà. Encore des coups de gueule.
Avec encore, évidemment, d'autres débriefeurs qui seront là. Très belle soirée et à demain, bien sûr, 19h30.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.